permission, on va débuter cette journée d'études. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous rappeler deux, trois petites choses concernant l'espace Mendès France et les formules que nous organisons régulièrement dans cette maison. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore, l'espace Mendès France est une association loi 1901 qui va bientôt fêter ses 40 ans. C'est une des plus anciennes de France, hein, avec Grenoble et puis Montreuil. Et depuis de nombreuses années maintenant, on a essayé de développer un ensemble d'actions qui permettaient de mettre en œuvre une relation entre la recherche, mais également les préoccupations de nos concitoyens. Alors, cette question de la recherche, elle est posée régulièrement sur un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes qu'on appelle par ailleurs transversaux et qui font appel à des compétences pluridisciplinaires. Et moi, je me suis rendu compte, en prenant la direction de cet établissement, qu'il y avait deux thèmes, deux thématiques assez générales, sur lesquelles, spontanément, la question de la recherche ne venait pas à l'idée de tout le monde, ou alors la question de la recherche était largement discutée. C'est la santé et l'environnement. J'en veux pour preuve une conférence qu'on a fait récemment à Thouars, dans le cadre d'une université populaire, où est venu à la tribune un universitaire poitevin que beaucoup de gens connaissent, hein, qui s'appelle Bernard Legube, qui est une des sommités françaises, voire européennes, en matière de qualité de l'eau, qu'on peut qualifier de tout sauf de scientiste, et qui a essayé d'animer un débat sur la question de la qualité de l'eau, de la consommation de l'eau et des conflits d'usage. On est en 2016 avec des données de 2016 sur un certain nombre de principes chimiques, hydrogéologiques, j'en passe et des meilleurs. Le débat avec la salle a vite tourné à l'incompréhension mutuelle et on se rendait compte qu'entre le corpus, on va l'appeler comme ça, que portait Bernard Legube, qui s'appuie sur les toutes dernières recherches, les toutes derniers résultats, se heurter à des représentations qui avaient pour un certain nombre d'entre elles une quinzaine, une vingtaine d'années, mais le discours ambiant était quand même « Vous les chercheurs, vous dites ce que vous voulez, nous on pense que ce que vous dites n'est pas objectif ». Pour deux raisons, je vous le dis explicitement, parce que vous êtes payé par le monde industriel, deuxièmement parce que vous faites votre recherche dans votre coin. C'était pas une, c'était pas deux, c'était pas 10 personnes, hein, c'était plusieurs dizaines. On est à Thouars. Il est 21h30, 22h, dans un endroit où la parole était complètement ouverte. Alors, si je dis ça, simplement, c'est que cette maison, elle est née de la volonté de scientifiques poitevins et de leur réseau. D'ailleurs, certains sont dans la salle, je les salue, qui ont, au départ, émis l'idée que la culture scientifique, c'était la vulgarisation des sciences. Ceux qui savent parlent à ceux qui ne savent pas. Puis ensuite, on échange. Cette maison, elle a fait évoluer tout ça, et vous allez voir qu'on arrive rapidement à notre problématique d'environnement, de biodiversité, à la question des insectes. Cette maison, elle a fait évoluer au gré des années ce rapport entre les contenus, la connaissance, nos concitoyens, en essayant de faire bouger le curseur, en considérant que ceux qui savaient, bien sûr, devait parler avec ceux qui sont censés ne pas savoir, mais en disant à ceux qui savent que ceux qui sont censés ne pas savoir ont quand même, par les réseaux sociaux, par les médias, une capacité à entrer dans la connaissance. Donc, l'échange n'est plus le même que celui d'il y a une vingtaine d'années. L'échange n'est plus le même non plus parce que la recherche et ses résultats impactent encore plus qu'avant sur notre société. Et ça, c'est pas quelque chose qui est évaporé, c'est quelque chose qui est extrêmement concret. Hein, qu'on fait ce qui s'est passé sur les molécules en termes de médicaments, etc., etc. Et puis, dernier point, parce que la recherche elle-même, elle a évolué, et c'est pas fini. Elle s'est internationalisée, elle s'est pluridisciplinarisée, trouver à monter des projets de plus en plus transversaux, etc., etc. Donc, l'espace Mendès France se doit de rendre compte de toutes ces composantes et de permettre un débat fécond. Pour autant, cette maison n'organise pas des rendez-vous de café du commerce. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut que, pour que le débat soit sain, correct, bien engagé, il faut partir de points fixes. Les points fixes sont dans la recherche. Et quand on continue à scander notre slogan « Il n'y a pas de culture scientifique sans les scientifiques », on essaie au gré du temps de le rendre vivant. Donc c'est pour ça, moi, je remercie Frédéric-Jeanne Richard, qui est membre du bureau de l'Espace Fondes France. Donc cette association fidèle à sa tradition de 40 ans a un bureau fort d'une trentaine de membres qui représente tous les secteurs de la science et de la recherche. Et les sciences de l'homme et de la société sont autant invitées que les sciences que l'on connaît plus communément, les maths, la physique, la chimie, qui sont des disciplines, la biologie, etc., etc. Donc cette journée d'études, elle s'inscrit dans ce contexte. On a eu dans cette salle, depuis une vingtaine d'années, nombre de journées d'études, de temps de rencontres qui parfois paraissaient un peu décalées. Alors, a fortiori ce matin, avec les résultats des élections des États-Unis, ça peut paraître incongru de se poser des questions autour de la biodiversité, des insectes, et de se poser la question à quoi servent-ils ? Sont-ils indispensables ? Servent-ils à quelque chose ? Bref. Eh bien non, il n'y a rien d'incongru à ça, parce que je viens d'écouter Douglas Kennedy qui commentait ses résultats en disant la grande question qui sera posée pour nous dans les mois qui viennent, c'est l'éducation et la culture. Donc sachez que cette maison continue à tracer son chemin avec une vision culturelle de la science. Cette notion de vision culturelle, elle renvoie à la capacité à faire du lien entre celles et ceux qui font avancer la connaissance académique en termes de recherche, celles et ceux qui souhaitent que cette connaissance soit partagée dans le monde associatif pour protéger notre environnement, protéger nos pratiques en termes de santé, etc. Et que ici, la question du débat ouvert, respectant les prises de parole et respectant la plurilibricité, dit-on de plus en plus maintenant, toujours est-il que cette maison continuera, au-delà de son rôle classique de diffuseur de la culture scientifique, à animer le débat. Donc c'est des choses qui sont difficiles. On a un mot qui est de plus en plus dans la bouche de certains qui parlent d'élitisme. Il n'y a rien d'élitiste à faire se rencontrer le monde de la recherche, le monde associatif, le monde de l'entreprise et nos concitoyens. Et puis, donc cette trame, vous la connaissez, et puis je voulais simplement vous redire, puisque je pense que c'est indispensable, l'espace Mendès France est en train d'aller vers une mutation liée à son environnement territorial. Vous savez qu'il y a une nouvelle région qui s'est créée autour de nous. Donc nous comptons bien diffuser sur l'ensemble des 12 départements, 55 communes de plus de 10 000 habitants et les trois infrarégions qui préexistaient. On a déjà commencé à travailler, appelé par un certain nombre de gens. Et les thèmes qui reviennent régulièrement, c'est les rapports entre santé et environnement. Environnement, recherche, je pars à Tulle demain matin parce que les gens de Tulle sont en train de lancer un pôle autour de ça. Et puis l'autre intérêt de nos concitoyens, puisque l'autre jour on a fait le décompte, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le service de l'État. Il y a à l'espace Mendès France plus de conférences que dans l'ensemble des centres de culture scientifique de France, la Cité des sciences comprise. C'est pas bien, je vous le dis, hein, c'est pas bien. Hein. 196 conférences en 2015 à l'espace Mendès France, soit intramuros, soit sur les territoires. 171 conférences, c'est pour moi qui ai donné le chiffre, c'est le ministère de la Recherche, sur l'ensemble de la France. C'est pour les 196 qui vont pas bien, c'est les 171. Hein. Donc si je vous dis ça, c'est que c'est un effort permanent que cette maison entretient, avec l'aide de tous et de toutes, c'est pour ça que je voulais redire ça. L'an dernier, l'espace Mendès France, c'était pas loin de 190 000 visiteurs, soit en intramuros, soit en extramuros. À l'étranger, nous avons fait 1 750 000 visiteurs avec nos expositions traduites en 13 langues sur la COP 21. La COP 22, nous avons actualisé. Nous partons sur l'ensemble du monde africain avec cette exposition. Donc pour vous dire que ce que vous faites là, un matin, puisque c'est enregistré, nous sert, nous, à remettre en perspective la manière dont on dispense des contenus. On les adapte, on les peaufine, on les met en ordre de marge de telle manière qu'on soit plus proche des préoccupations de tout un chacun. Donc ce travail, on va le continuer. Merci à Anne d'animer ces croisements d'intervenants. Merci aux intervenants de la journée. L'exposition Espace et espèces que nous avions mis en œuvre il y a 9 ans vient de recevoir un financement européen pour être dupliquée. Elle sera mise à disposition des 790 établissements scolaires de la Nouvelle-Aquitaine, hein, puisque tel est le nom de cette grande région. Et nous, avec les compétences de l'Espace Mendès France, nous irons faire des formations à la médiation scientifique, recherche, environnement à travers Espace et espèces, l'exposition Insectes, mais également l'exposition COP22. Donc la région et les programmes européens du FEDER nous ont octroyé de quoi dupliquer et de passer du temps pour faire de la formation. Cette formation, puisque je vois qu'il y a une animatrice de l'Espace Mendès France qui est là, cette formation sera dispensée ensuite à l'extérieur pour que on puisse démultiplier ce support, cet outil. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais je souhaitais remettre en perspective la place de l'Espace Mendès France sur cette question de l'environnement dans ses rapports à la recherche et à l'organisation de débats citoyens. Alors tout ça ne nous empêche pas de, à côté, faire des expos sur les maths, hein, en organisant plus de 600 classes se sont inscrites au total. Ça va être un des grands succès de l'établissement depuis 10 ans. Et l'an prochain, nous accueillerons une exposition qui vient du Japon sur les robots. Voilà, pour vous dire que espace, espèces, biodiversité, insectes, n'empêche pas de faire un peu de mathématiques, de physique, de chimie, d'arpenter. Il y aura des robots dans l'établissement au mois de septembre prochain. Donc je vous invite à suivre l'actualité de la maison. Donc merci à toutes et à tous. Frédéric Jeanne, je vais te passer la parole. Merci d'être là. Et puis, bon courage à tous. Moi, je vais faire de l'astronomie maintenant, avec votre permission.
Bonjour. Comme vous avez pu le voir, nous avons un programme qui est assez chargé, qui est très complet. C'est vraiment, je pense, un honneur pour nous, en fait, à Poitiers, de recevoir toutes ces personnes. Ils sont tous là, ils sont tous arrivés. Donc, comme vous avez après, il y a des temps de pause, des temps en commun. Enfin, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre qu'ils aient fait leur présentation pour interagir avec eux si vous le voulez. Donc, peut-être, ils vont juste se présenter en fait très, très rapidement. Déjà, Patrick Blandin s'excuse parce qu'il ne peut pas venir pour des raisons personnelles de santé qui sont tout à fait justifiées. Donc, nous avons Valérie Chansigaud. Qui est là, qui vient donc de Paris 7, et qui va nous parler de l'histoire des relations homme-insecte, les ouvrages naturalistes. Donc Valérie... Pardon ? Si. Mais c'est juste parce que comme après, il va y avoir des temps de pause dans la journée, comme ça les gens pourront éventuellement poser des questions s'ils le souhaitent. Donc voilà. Derrière Valérie, nous avons Jean-Louis Denebourg, qui vient de l'Université libre de Bruxelles et qui parlera davantage d'intelligence en fait, collective. C'est le nom de sa présentation. Nous avons à sa gauche Luc Gommel, donc, qui nous vient de Montpellier, et lui qui nous parlera davantage de la culture scientifique. À sa gauche, nous avons Roland Lupoli, qui vient aussi de Paris et qui va nous parler davantage d'insectes et de pharmacologie. Juste devant, nous avons Christine Rollard, qui va vous parler d'araignées, elle va vous faire découvrir ce monde qui est souvent pas très connu. Et puis, sur la gauche, nous avons Vincent Lupoli, qui va vous donner des astuces, notamment... Albouy, excusez-moi. Vincent Albouy. Qui va vous donner des astuces sur un petit peu la façon dont vous pouvez améliorer la biodiversité, notamment les insectes, dans vos jardins. Je pense que j'ai oublié personne, parce que je n'ai pas tout à fait suivi l'ordre du programme. Alors, comme M. Blandin ne peut pas venir, un petit peu au pied levé, je vais le remplacer et je vais vous parler des insectes eusociaux. Je vais mettre cet ordinateur. Alors, en ce qui me concerne, si j'utilise un vocabulaire que vous souhaitez que je développe, ou si vous voulez poser des questions pendant la conférence, vous pouvez. Mais évidemment, on aura un temps dédié après pour cela. Donc, comme je vous le disais, je vais vous parler des insectes et des sociétés, un petit peu vous donner une idée de ce qu'ils représentent, des différentes sociétés qu'on peut trouver. Et notamment, une des choses qui caractérise les insectes sociaux, c'est qu'ils partagent un nid commun. Un nid commun, ça va être, par exemple, ces structures assez surprenantes. Ici, vous avez un nid de termites, des termites champignonistes. C'est celles qui font les colonies les plus impressionnantes. C'est dur, un bulldozer a du mal à les casser. Alors, il peut en casser un, deux, mais à la fin, le bulldozer s'épuise avant d'avoir réussi à casser tous les nids. Vous avez aussi ces fourmis qui font des dômes, que vous trouvez notamment dans les Alpes et qui sont protégées, par exemple, en Suisse, dans les Alpes suisses. Et puis, vous avez des nids aussi que vous trouvez dans les arbres, plutôt des nids de frelons, qui peuvent avoir des tailles très impressionnantes, notamment ceux des frelons asiatiques. Vous pouvez d'ailleurs voir des nids dans le cadre de l'exposition. Donc, cette structure commune dans laquelle ils vivent et qui va leur permettre notamment de s'affranchir des modifications de l'environnement. C'est-à-dire que la température, par exemple, et la quantité de CO2 à l'intérieur de la termitière va être régulée. La température ne va quasiment pas varier au cours de la journée, alors que vous êtes dans des milieux qui sont très arides, très désertiques, où la température extérieure, par contre, varie de façon considérable. Donc vous avez un petit peu un microclimat qui est créé pour les individus. Alors, pour dire qu'une espèce est sociale, il faut différentes caractéristiques. Le partage de ce nid commun, mais pas seulement. On a également une superposition des générations adultes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des individus qui sont, on va dire, terminés sur le plan du développement, on vous a appris à l'école, en biologie, qu'une fois que les individus sont matures, eh ben, ils partent. Ils vont fonder soit une nouvelle famille ou qu'ils vont se reproduire. Ils vont devenir indépendants de leurs parents. Ici, ce n'est pas ce qui se passe. Vous avez la majorité des individus, qu'on appelle en général les ouvrières ou les ouvriers, qui vont rester à l'intérieur de la colonie et qui vont contribuer au bon fonctionnement de cette colonie. Donc, qui vont contribuer à la production, eh bien, par exemple, de leurs sœurs. Alors, évidemment, vous avez quand même des individus à certains moments qui vont partir. C'est ce qu'on appelle les reproducteurs et qui, eux, sont produits à une période particulière de l'année. Notamment, par exemple, dans nos pays tempérés, au mois de juin, vous avez ce qu'on appelle l'essaimage, ou début juillet. Quand il commence à faire chaud, humide, un petit peu orage, vous avez pas mal d'espèces qui vont en profiter pour essaimer. Et ces reproducteurs vont, eux, fonder des nouvelles colonies. Mais les ouvriers, les autres individus adultes, les ouvrières, restent dans la colonie. Vous avez également une coopération pour les soins aux jeunes. C'est-à-dire que vous allez avoir des individus qui vont s'occuper des jeunes qui ne sont pas forcément les leurs. Et puis, potentiellement, tout le monde peut contribuer à ces soins dans les jeunes. Alors les jeunes, ça va être les œufs, ça va être les larves, ça va être le fait de les laver, de les déplacer, de les entretenir, de les nourrir. Donc ça va être fait par des individus, donc j'insiste, qui ne sont pas forcément, même souvent d'ailleurs, qui ne sont pas les parents. Et puis enfin, vous avez une division du travail avec des castes spécialisées. Donc non seulement les soins aux jeunes font partie des tâches, mais vous en avez plein d'autres. Toutes ces tâches, ça va être par exemple la collecte de nourriture, ramener de la nourriture à l'intérieur de la colonie. Vous allez avoir le fait d'entretenir le nid, la construction du nid, la réparation du nid. Vous avez aussi le nettoyage. Vous avez tout un tas d'activités. Et vous allez avoir des individus, des groupes d'individus qui vont être spécialisés. Alors, cette spécialisation, elle peut se faire de différentes façons. Soit elle va être liée, par exemple, à l'âge des individus, ce qui est le cas chez les abeilles, mais elle peut aussi être liée à la morphologie des individus. Les fameux soldats, en général, ont des adaptations morphologiques caractéristiques et sont spécialisés davantage dans la défense et la protection de la colonie. Alors, parmi justement ces insectes sociaux, vous avez les isoptères. Les isoptères, vous les avez ici, ce sont les termites. Les termites, vous les voyez rarement se promener. Ici, pourtant, ils sont à l'extérieur, ils sont sur un tronc d'arbre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens, en général, n'en veulent pas. Et donc ça, c'était en Guadeloupe. Et ils sont arrivés avec leurs machettes. Ils ont commencé à détruire la colonie. Donc, panique. Et puis, vous avez tous ces ouvriers qui sortent et qui vont essayer de trouver un autre endroit plus favorable. Ils vont rien trouver. Ils vont mourir. Hein. Ou alors, il va falloir qu'ils reviennent et qu'ils reconstruisent. Alors, vous voyez qu'en fait, parmi tous ces individus, ce que vous voyez, ce sont des stades larvaires. Ceux qui font des dégâts, ceux qui mangent le bois, qui sont en plus grand nombre, ce sont des stades larvaires, avec un couple reproducteur, un roi et une reine. Vous pouvez voir ici, là, avec la tête très pointue, ce sont des soldats, donc avec des mandibules beaucoup plus effilées. Et puis vous avez là des ouvriers et des ouvrières, des mâles et des femelles. Ça va être que chez les isoptères. Ensuite, vous avez les hyménoptères. Alors, toutes les fourmis vivent en société aussi. Il n'existe pas d'espèce de fourmi solitaire. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais moi, pourtant, des fois, je vois une fourmi, elle est toute seule, par exemple, celle-là. Elle est en train de se promener, elle est toute seule. Oui, elle est en train de chercher à manger, elle est en train de fourrager, mais ce qu'elle trouve, elle va le ramener à la colonie et le partager avec les autres. Donc, pas d'espèce de fourmi solitaire. Ce qui n'est pas le cas chez les abeilles et chez les guêpes. Où vous trouvez des stades, des espèces solitaires et également des espèces eusociales avec un niveau de complexité qui va être le maximum en fait, de ce qu'on connaît. Donc là, vous avez une abeille. Ici, par exemple, vous avez un nid de guêpe. Alors, ce nid de guêpe, c'était au Mexique, elle voit très bien. Donc, vous avez une distance à laquelle vous pouvez vous approcher, mais il y a un moment, elle vous regarde de trop près, il ne faut pas s'approcher plus. Sinon, quand elle vous attaque tout en même temps. Elles viennent. Et puis là, c'est des grosses. C'est des grosses bêtes. Vous voyez aussi que sur ce nid, vous avez des cellules qui sont ouvertes et puis des cellules qui sont operculées. Les cellules ouvertes, il y a probablement la reine qui a pondu un œuf, ou vous pouvez avoir des stades larvaires, je vous montrerai des photos tout à l'heure, ou les cellules operculées, là, ça veut dire que vous allez avoir la métamorphose des individus, du stade larvaire au stade adulte. Et quand cette métamorphose est terminée, eh ben, ce qui va sortir, c'est une abeille, une guêpe, pardon, ou une abeille, hein, mais finie, qui va avoir une taille fixe qui ne va pas bouger. C'est pareil aussi chez les fourmis. Vous avez une taille fixe, après les individus ne grandissent plus. Alors, eh bien, ils sont partout. Les fourmis, notamment, sont partout. Elles ne sont pas les seules, hein, ce sont des espèces cosmopolites. Quand on dit partout, ça va être de l'Arctique au tropique. Alors évidemment, la diversité d'espèces n'est pas la même, mais vous en trouvez dans tous les milieux. Alors, si vous êtes dans un endroit où la température est toujours en dessous de zéro toute l'année, en fait, vous ne pouvez pas en avoir, parce qu'elles vont être, leur activité va être dépendante de la température extérieure. Mais là où vous pouvez quand même en trouver, c'est dans les habitations humaines, dans les maisons. Vous pouvez aussi en trouver du niveau de la mer à la canopée. La canopée, c'est la partie superficielle en fait, au niveau des arbres, en forêt tropicale. Là aussi, vous avez une grande biodiversité. Et puis, des milieux humides, au milieu très, très sec. Alors, au niveau des milieux humides, vous avez, par exemple, sur les bords de Loire, dans les gravières, eh bien, vous avez des espèces qui vivent là. Et donc, quand le niveau de l'eau est trop haut, eh bien, elles ferment le nid. Et puis, l'été, quand le niveau de l'eau commence à diminuer, eh bien, elles ouvrent le nid pour, à ce moment-là, reprendre une activité. Donc là, ce sont des cardiocondylas. Milieu désertique, c'est dans les déserts que vous trouvez les fourmis les plus rapides, les cataglyphis, qui sont très effilées, très hautes sur pattes, et qui forment des nids comme ça, pour certaines espèces, au milieu du désert. Donc dans ce nid, vous avez la partie superficielle, mais vous avez aussi la suite du nid qui va être dans le sol, et qui va leur permettre, notamment dans ce nid, il fait beaucoup moins chaud qu'à l'extérieur. Et puis là où vous avez trouvé un maximum de biodiversité, c'est dans la forêt tropicale. Donc on ne connaît pas encore exactement le nombre d'espèces, mais c'est un milieu qui est très dense et qui est très favorable à la diversité. Alors on a quand même des estimations, on estime à environ 11 815 espèces. C'est un chiffre selon peut-être les ouvrages que vous allez regarder qui varie, parce qu'on peut considérer, certaines estimations disent qu'on serait plutôt à 20 000. Donc c'est variable, et ça je pense que, par exemple, Christine Aurelard pourra vous en parler aussi peut-être un peu avec les araignées, sur notamment cette définition d'espèce. et la taxonomie est révisée. C'est pas quelque chose de facile, et c'est ce qui explique en fait que ce nombre varie énormément. Alors pas que pour les fourmis, hein. Vous avez aussi, par exemple, je pense que pour les araignées, il doit varier selon les personnes, pour les énormément de genres. Et 340 genres. En tout cas, le message qui est important, c'est que vous avez un grand nombre d'espèces, et ces espèces ont des caractéristiques biologiques différentes. Elles ont tout en commun les quatre points qu'on a mentionnés au début, mais après, vous avez un panel de diversité dans leur organisation, dans leur fonctionnement, dans la taille des colonies, dans ce qu'elles mangent, dans leur rôle au niveau de l'environnement. En France, pour vous donner une idée, on a 213 espèces et 41 genres. Donc en France, par contre, en pays tempéré, hein, ce chiffre, par contre, est beaucoup plus fiable. Il ne variera pas beaucoup. Alors cette diversité se caractérise par des tailles différentes, des formes différentes. Notamment, j'attire votre attention sur deux zones. La tête et les mandibules, vous pouvez voir des grandes différences. Et puis, une zone qui varie aussi énormément, c'est cette zone intermédiaire entre le thorax et l'abdomen, avec un pétiole qui va être parfois fusionné ou non, ou segmenté par rapport à l'abdomen. Et si vous regardez cette zone-là, sur les différents exemples que je vous ai mis, et bien vous allez voir que c'est très différent. Et de temps en temps, vous voyez, ça va être très serré, très effilé. Certaines ressemblent même à des guêpes, et font aussi mal que des guêpes d'ailleurs, si elles vous piquent. La couleur chez la fourmi est liée aux poils, souvent. Des poils qui vont être... Donc vous en avez des jaunes mordorés, des jaunes soleil, vous en avez des rouges, vous en avez des noirs. Voilà. Oui ? Genre. Oui ? Oui. Alors, en fait, la seule unité... En fait, ce qui est le plus important, c'est espèce. Mais vous avez plusieurs espèces qui vont avoir des caractéristiques communes, peu de différences, et à ce moment-là, on peut les regrouper en genres. Et après, vous pouvez avoir plusieurs genres qui feront partie de la même famille. Et comme ça, on va avoir des niveaux de construction, et puis après, on va arriver comme ça, par exemple, aux hyménoptères. Et après, vous avez des niveaux, vous avez arthropodes, vous allez pouvoir monter comme ça au niveau de la classification. Donc le genre, ça vous donne aussi une idée un petit peu de deux espèces du même genre, souvent se ressembleront beaucoup plus que si c'est un genre différent. Mais l'unité de référence, quand même, c'est l'espèce. Après, c'est l'homme qui décide de regrouper certaines espèces avec des caractéristiques. Donc, par exemple, les colonies de fourmis, vous pouvez avoir différentes castes. Alors, avec des individus, vous voyez, toutes les ouvrières n'ont pas la même taille. Elles naissent à une taille fixe. Ce n'est pas des bébés qui vont grandir. Et de temps en temps, vous avez des cas extrêmes, hein, par exemple comme celui-là. Elles appartiennent à la même colonie, se reconnaissent comme appartenant à la même colonie, mais vous voyez, celle qui est sur la tête, là, elle est vraiment toute petite par rapport à l'autre individu. Ces différences de taille, ce n'est pas quelque chose de facile à mettre en évidence, enfin, pour les expliquer. Alors, en partie, pour un grand nombre d'espèces, ça peut être lié à ce qu'elles ont mangé, aux conditions notamment de l'environnement. Mais après, vous avez un polymorphisme naturel qui existe chez un grand nombre d'espèces. Alors, vous avez ici les reproducteurs, mais ils ont des ailes. Donc, ils ne sont pas du tout actifs. Ce n'est pas la reine de la colonie. Elle n'aurait pas été sacrifiée comme ça. Et ça, ce n'est pas le mâle, c'est un mâle. Une fois qu'ils sont accouplés, eh bien, les reines vont couper leurs ailes. Et les mâles, par contre, eux ne resteront pas avec la reine. On est chez les fourmis, contrairement aux termites. À quoi vous pouvez faire la différence entre la future reine, donc la femelle, et le mâle ? Les antennes, oui. Le mâle a les antennes qui sont droites, et puis c'est celui qui a la petite tête. Vous voyez, elle est toute petite. Alors, autre chose, contrairement aux termites où je vous ai dit que les ouvriers, c'était des mâles et des femelles, chez les fourmis, Si vous voyez une fourmi qui se promène et donc qui n'a pas d'ailes, parce que s'il y a des ailes, hein, ça peut être un mâle ou une femelle, eh bien, vous pouvez dire c'est une femelle. Je pense que vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un monde de femelles. Toutes les ouvrières sont des femelles. Alors, effet idole. Au niveau des termites, on a à peu près 2753 espèces de termites. Alors les termites, vous pouvez les trouver donc, dans les pays tempérés, Amérique latine, Afrique, Australie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la caractéristique du nid n'est pas la même. C'est-à-dire que, par exemple, dans les pays tempérés, on les a plutôt au niveau du sol, au niveau des brindilles, dans du bois mort. Et puis, si elles veulent se rendre d'un endroit à l'autre, elles vont construire des tunnels. C'est ce que vous voyez sur cet arbre ici. Vous voyez là, ça fait comme des nervures sur l'arbre. Eh bien, c'est les termites qui ont construit des tunnels pour se déplacer d'un endroit à l'autre et se protéger de la lumière, se protéger de la dessiccation. Et puis, si vous voyagez un petit peu, vous allez en Amérique latine. Eh bien, vous allez trouver en plus des termitières dans les arbres. Alors, c'est surprenant de légèreté. Hein. C'est vraiment, imaginez une éponge avec plein de petites galeries. Et par contre, c'est très dur, mais très léger. Et puis, si vous allez en Afrique ou en Australie, ben, vous en avez aussi dans le sol, vous en avez dans les arbres. Et vous avez ces constructions assez spectaculaires. On peut appeler aussi des cathédrales. Pour vous donner une échelle, hein, ce n'est pas un nain, hein, ce monsieur. Il doit faire, à mon avis, dans les 1,80 m. Alors, chez les termites, je vous ai dit à peu près 2000 espèces, mais pour reconnaître les espèces, eh bien, ce n'est pas facile. Là, je vous ai pris des termites qui n'ont rien à voir, qui ne se ressemblent pas du tout. Ben pour faire la différence, chapeau, c'est pas facile. Alors, une des caractéristiques qui est utilisée, ça va être au niveau de la forme des mandibules, avec des mesures biométriques, notamment sur ceux justement qui ont une tête comme ça, qui est un petit peu rigide. Alors, les abeilles, on a à peu près 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, grande diversité aussi, hein, au niveau des couleurs, au niveau de la taille. Vous avez des espèces solitaires, eusociales. Et puis les guêpes. On a à peu près plus de 700 espèces de guêpes. Donc notamment, vous avez ces guêpes qui sont, qu'on trouve au Mexique. Où donc, vous avez une reine. Où elle est, je ne sais pas. Chez ces guêpes, qui sont considérées sur le plan évolutif comme plus primitives, par exemple, que les abeilles ou les fourmis, eh bien, la reine a la même morphologie que les ouvrières. Par contre, la physiologie, non. C'est elle qui a le monopole de la reproduction. Mais pour savoir qui est la reine, il faut les observer, puis attendre de voir qui pond. Alors, les guêpes construisent aussi des nids de formes différentes. Oui ? C'est-à-dire... Donc là, en fait, elles forment un plateau. Et puis, vous avez aussi des nids, par exemple, qui peuvent avoir des formes très effilées. Donc, ça peut vous aider aussi à reconnaître un petit peu le type d'espèce. Donc, si on regarde un petit peu au niveau du nid, justement, toujours chez les guêpes, hein, donc vous voyez, là, vous avez les œufs qui ont été pondus, des œufs qui vont se développer avec des larves. Donc, vous avez plusieurs stades larvaires où elles vont grossir. Et puis, quand votre larve, eh bien, elle a fini de grossir, qu'elle est bien grassouillette, elle va tisser ici, tout autour, le cocon, et elle va le fermer. Et donc, elle va être bien protégée, et c'est là qu'elle va faire sa métamorphose complète. Alors, on peut, sur le plan expérimental, hein, en recherche, eh ben, donner, par exemple, une alimentation différente aux larves pour voir les conséquences. Donc, vous arrivez avec votre petite pipette, et puis là, vous lui donnez un petit truc à manger, elle sera contente. Alors, ce qui caractérise aussi ces espèces sociales, c'est un nombre très important d'ouvrières. Alors, pas toutes les espèces, hein, mais vous avez notamment, par exemple, les fourmis nomades, les Dorylus, où vous pouvez avoir plus de 20 millions d'ouvrières. Et vous avez une reine. La reine est très grosse. C'est vraiment des reines assez impressionnantes. Et vous avez ces colonnes comme ça d'individus qui sont vraiment les uns sur les autres. Alors, ce qui les caractérise aussi, ça va être le fait d'avoir des soldats et de se déplacer. Donc ici, vous avez une reine qui est couverte d'autres ouvrières. Elle la protège, et c'est parce que la reine a une odeur qui attire. Ici, vous avez un soldat. Vous voyez ces grandes mandibules Et les soldats, vous en avez même certains, quand vous les voyez passer, il faut qu'ils lèvent la tête, ils ont du mal à marcher, les mandibules traînent par terre. Ils ont tellement de mandibules, des mandibules tellement importantes qu'ils ne peuvent pas s'alimenter tout seuls. C'est les ouvrières qui vont devoir leur donner à manger. Donc ils peuvent vraiment être utiles que pour la défense. Ils font très mal, hein. Ils sont très efficaces. Donc ces fourmis, en fait, ce qui les caractérise, eh bien, c'est qu'elles vont avoir déjà une seule reine et elles vont se déplacer. Quand elles ne vont plus avoir suffisamment à manger dans leur environnement, elles vont faire ce qu'on appelle des raids. Ces raids, ils sont structurés. Et donc, vous allez avoir des individus sur le front, devant, qui ne voient pas bien, en fait. Hein. Elles ont vraiment une vue très peu développée, qui vont avancer un tout petit peu, et puis après, qui vont repasser derrière. Et puis, tout le monde, comme ça... Ah, pourtant, elles vont très vite. Hein. Mais en fait, les individus devant, ce n'est pas les mêmes. Ils changent très, très rapidement. Et elles vont déposer une phéromone de piste, une odeur, qui fait que tout le monde va pouvoir les suivre. Donc, cette phéromone... Effectivement, si c'était toujours la même devant, la quantité s'épuiserait très rapidement. Et donc, le fait que ça tourne, elles peuvent toutes déposer des phéromones. Alors, ces fourmis qui se déplacent, hein, ces fourmis nomades, elles ont des caractéristiques différentes, mais on en trouve en Amérique latine et en Afrique. Et en Afrique, par exemple, c'est un peu comme les éléphants. C'est-à-dire qu'elles vont faire des grands circuits et à l'échelle d'une année, le circuit est à peu près semblable. Et figurez-vous que parfois, elles passent par des villages. Donc, des fois, ils n'ont pas vu arriver suffisamment à l'avance, donc c'est la panique. Mais il faut se déplacer, il faut aller dans un autre petit village à côté. Parce qu'elles sont voraces. Hein. Elles font des colonies énormes, il faut nourrir tout ce monde-là. Et elles mangent de tout. Et donc, dans la panique, parfois, ils oublient un poulet, ils oublient quelque chose. Tout est mangé. Le gros avantage, c'est qu'elles nettoient, elles font le ménage. Et elles vont aller derrière tout, hein, derrière les meubles. Elles vont vraiment parfaitement nettoyer l'habitation. Donc voici une autre photo. Hein. Alors, ce n'est pas très facile à prendre comme photo parce que ça bouge tout le temps. Elles sont toujours actives. Et leur nid, je vous ai parlé d'une structure, d'une construction. Ces fourmis-là ne construisent pas. Elles vont utiliser, alors s'il y a un trou dans un arbre, comme ici, elles vont s'y installer. Vous voyez, tout ça, c'est un magma, un amas de fourmis. Mais si elles ne trouvent pas, c'est pas grave, elles vont faire un monticule, comme ça, au niveau du sol. Donc vous allez avoir cette boule d'animaux vivants. Et il s'avère que la reine et le couvain sont au milieu. Et la température au milieu, elle est toujours à peu près constante. Donc, ce micro-environnement, il va être créé par la masse d'individus. Alors, quand il y a un tronc d'arbre, ouais, elles disent pas non. Hein. Et puis, il y a 3 ans, quand j'étais en forêt tropicale, on n'en voit pas souvent. Et puis, à un moment, je me dis, ah, ça sent pas bon, ça sent un peu la chair en putréfaction, il y a un animal qui doit être en train de mourir, il y a quelque chose. Alors, même si je ne fais pas de photos d'animaux morts, pourquoi, je ne sais pas, j'en fais pas. Je me suis dit, je vais quand même aller voir, parce que des mammifères, on n'en voit pas souvent. Donc, au nez, je me suis orientée pour trouver où était cet animal mort. Et je suis tombée sur quoi ? Ces fourmis-là. Comme elles ramassent tout, tous les petits cadavres, tout ce qu'elles trouvent, en fait, ça sent très, très fort. Alors, je me suis dit, super, je vais essayer de faire une photo. Voilà la photo. Hein. C'est-à-dire que le temps que je m'installe avec mon trépied, vous avez des branches de partout, vous avez des lianes, c'est un milieu qui est dense. Et elles ont commencé à réaliser que j'étais là, et elles ont commencé à venir sur moi. Et là, il faut partir. Il ne faut pas rester. Donc, même si on a des bottes, si on est équipé, vous avez tout de suite plein d'individus qui arrivent, et même si elles ne voient pas bien, elles vous trouvent. Et certains disent que finalement, c'est plus dangereux de rencontrer ces fourmis qu'un serpent, par exemple. Bon, ça dépend de l'interaction que vous avez avec, moi, je dirais. Alors, toujours en nombre d'ouvrières démesurées, vous avez au Japon, par exemple, ce qu'on appelle une super colonie. 306 millions d'ouvrières, 1 080 000 reines, et puis 45 000 nids. Alors, première chose, on vous dit toujours, chez les fourmis, une colonie a une reine. Ici, il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a 45 000. Vous avez effectivement plusieurs reines, c'est tout à fait possible. Il y a plein d'espèces pour qui c'est le cas, mais proportionnellement, 1 million par rapport à 306 millions, c'est beaucoup plus faible. Hein, la majorité des individus, ce sont quand même les ouvrières. Alors, pourquoi on parle de super colonies ? En fait, c'est plusieurs colonies. Mais toutes ces colonies se reconnaissent finalement comme appartenant à la même espèce et vont se tolérer les unes avec les autres. Contrairement, par exemple, à des espèces que nous, on a en France, où des individus qui n'appartiennent pas à la même colonie ne s'acceptent pas. Donc vous n'avez pas ce qu'on appelle la reconnaissance coloniale. Et donc on parle de super-colonie. Après, vous pouvez voir que les Japonais, ils sont patients hein, d'avoir compté autant d'individus. En fait, on fait des estimations hein, sur certaines zones, et puis après, on calcule globalement combien ça peut faire d'individus. Alors, pourquoi ça, c'est intéressant ? Eh bien, en France, figurez-vous qu'on a le problème avec l'invasion de certaines fourmis, notamment sur le pourtour méditerranéen, par exemple du côté de Montpellier, qui forment justement des super colonies. Et ça les rend vraiment très efficaces dans l'environnement et elles vont se développer au détriment des espèces de fourmis locales. Alors ce nombre démesuré d'ouvrières, on le retrouve aussi chez les termites, hein, où vous pouvez avoir des colonies avec quelques centaines d'individus. Par exemple, les termites que nous avons en France, nos espèces, ben, c'est plutôt entre centaines à... ça peut être 1000, enfin, dans ces zones-là, avec plusieurs millions d'individus chez ces fameuses termites-là qui font ces grandes cathédrales que je vous ai montrées et qui vivent aussi en symbiose avec un champignon. Ce que vous voyez ici, là, c'est la reine de ces termites champignonistes. La reine, vous avez sa tête, vous avez son thorax, et là, vous avez son abdomen qui s'est complètement distendu. Et cette reine, c'est une machine à pondre. Vous voyez toutes les contractions de l'abdomen quand elle pond. Alors, elle a du mal à se déplacer, hein, parce qu'elle a ses petites pattes qui sont là, et ce gros abdomen énorme à déplacer. Donc, vous voyez encore les segments là, de cuticules de l'abdomen. Initialement, elle avait à peu près cette taille-là. Et là, ce que vous voyez, c'est le mâle. Chez les termites, vous avez un couple royal, le roi et la reine. Pour la fécondation, oui. Oui, le couple est fidèle. Alors, si le roi meurt, parfois il peut être remplacé. Chez les abeilles, vous avez aussi un grand nombre d'ouvrières, entre 40 et 80 000 individus. Alors, les fourmis se nourrissent de tout. Vous trouvez, en fonction des espèces, des régimes alimentaires qui vont être très variés, et notamment de petits cadavres d'insectes. Donc, heureusement qu'elles sont là, elles font le ménage. Elles nettoient, finalement, leur environnement. Donc là, vous avez, par exemple, une fourmi qui est en train de collecter du miel là pour le ramener après à l'intérieur de son nid. Et puis ici, vous avez des fourmis qui sont en train de voler le miel là à une autre fourmi. C'est plus rapide. Elles peuvent aussi attraper des insectes vivants. Et puis, vous allez avoir une stratégie qui fait que même si elles sont toutes petites, en étant à plusieurs et en immobilisant cet insecte, elles vont pouvoir le découper et le ramener en petits morceaux à l'intérieur du nid. Et puis, du coup, comme ce sont des grandes prédatrices qu'elles chassent, eh bien, elles vont, de par leur action, protéger l'environnement dans lequel elles sont. Vous avez, par exemple, ces fourmis qu'on va trouver au niveau des arbres, qu'on appelle des écophiles, qu'on trouve en Australie, en Asie, en Afrique. Alors vous avez deux espèces d'écophiles, elles vont nidifier dans les arbres. Donc l'arbre, c'est leur territoire. Et dès que vous avez quelque chose qui touche cet arbre, que ce soit un autre insecte, un mammifère ou vous, très vite, l'alarme est donnée et elles arrivent et elles attaquent. Alors, si elles peuvent attraper, c'est mieux, parce que du coup, ça leur fait quelque chose à manger. Mais en tout cas, elles sont rapides et efficaces. D'où l'idée potentielle, ben, pourquoi à ce moment-là, plutôt que d'utiliser des insecticides, on va mettre ces fourmis. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire en Asie. Alors, ça n'a pas marché aussi bien que prévu, parce qu'en fait, la densité de nids, du coup, était un petit peu trop importante, et il n'y avait pas forcément suffisamment à manger pour les maintenir. Enfin, bon, ce n'était pas aussi efficace que ce qu'ils espéraient. Alors, ces fourmis, on les appelle aussi des fourmis tisserandes. Elles vont tisser les feuilles des arbres entre elles. Et donc, elles vont former des chaînes d'individus, les unes sur les autres. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des individus qui se retirent pour rapprocher les feuilles. Ensuite, elles vont aller chercher une larve. Alors, plutôt troisième, voire quatrième stade larvaire, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire quand la larve va être prête à tisser son cocon pour s'en finir, sa métamorphose. Et au lieu de tisser son cocon, eh ben, l'ouvrière va prendre la larve et va l'emmener de droite à gauche pour relier les feuilles entre elles. Et puis, évidemment, quand vous voyez la taille des feuilles et la larve, elle est toute petite, donc assez rapidement, ben, la larve elle va s'épuiser, ben, elle ira en chercher une autre. Et la larve va mourir, par contre. Et ça forme des nids comme ça. Donc ça, c'est un nid tout frais, tout jeune, hein, que vous voyez dans le haut des arbres. Ce sont des colonies avec une seule reine, mais parfois, vous pouvez avoir plusieurs nids, donc où les individus vont communiquer entre les différents nids. Donc voici une photo, par exemple, toujours d'écophile. Alors, ce qui est très joli avec celle-là, ben, c'est qu'elle a un petit abdomen qui est vert. C'est vert très clair. Hein, de... Et puis, en fait, ce qui m'avait plu, là, c'est qu'elle était en train de tisser. Et là, ça fait comme un miroir, mais en fait, c'est une autre fourmi. Elles sont chacune d'un côté. Et donc là, ce n'était pas dans les arbres, hein, c'était, bah, c'était à mon niveau. Hein. C'était au niveau de à peu près à un mètre où elles rapprochaient certaines feuilles entre elles. Et puis ces deux-là, toujours la même espèce, eh ben, elles sont culottées. Alors que je suis là, que j'ai des ranges, ce qu'elles sont en train de faire, là, c'est une trophallaxie. Elles se rencontrent, elles font des échanges anténaires, et puis finalement, hop, une petite trophallaxie où on échange du liquide. Elles échangent du liquide entre elles. C'est un comportement qui est très courant et en général qu'elles font surtout à l'intérieur de la colonie. Alors, pour lutter justement contre d'autres insectes, on peut utiliser différentes espèces de fourmis, mais ça ne marche pas toujours très bien. Mais d'autres fourmis qui font des nids dans des arbres et qui sont très efficaces, ce sont des tétramoriums. Et ça, les tétramoriums, africanum par exemple, vous les trouvez, et aculeatum, vous les trouvez en Afrique. Et quand on est arrivé et qu'on a dit on cherche des aculéatomes pour les étudier, eh ben on était accueillis comme des dieux. Et tout le monde était « Ah, ils veulent, ces blancs, récupérer les tétramoriums, on va aller voir comment ils font. » Donc eux, ils étaient bien éloignés, hein, ils nous regardaient, ils rigolaient. Et nous, on arrivait avec nos gants qu'on scotchait au niveau de nos bras. Et puis, ben, on essayait d'être prudents, donc on avait des grands sacs. Et l'idée, c'était presque de couper la branche, que le nid tombe, et puis vite de fermer. Et on s'intéressait à ces fourmis, c'était pour étudier le venin. Venin qui était très puissant, et le postdoc qui avait le projet qui était financé travaillait du coup pour l'armée israélienne. Et donc on s'est fait piquer. Au début, les gens nous ont aidés, puis dès que les fourmis ont commencé à courir un peu partout et qu'on a commencé à se faire piquer, ben, ils nous ont pu aider. Et voilà, ça a été. Parce que ça, vous pouvez aller à l'hôpital, hein, c'est très, très puissant. Alors, je vais vous donner un dernier exemple rapidement de fourmis. C'est les fourmis champignonistes, qui sont des fourmis qui vivent en symbiose avec un champignon. Ce sont des fourmis que vous trouvez uniquement en Amérique latine. Alors, on peut aussi en trouver là au sud des États-Unis, hein, ça monte, ça va quasiment jusque-là, qui ont un impact écologique qui est très, très important. Ces fourmis, elles ramènent un champignon qu'elles vont élever. Et sur le plan évolutif, on dit que c'est les premières à avoir inventé l'agriculture parce qu'elles, elles le font depuis 50 à 60 millions d'années. Donc ces fourmis, en fait, elles vivent, vous avez plusieurs espèces, hein, avec un champignon, mais c'est le mycélium du champignon. Donc quand vous avez un cep, eh ben, en fait, ce n'est pas la fructification qu'on voit sur le dessus, le mycélium, c'est la partie qui est en dessous. Et ce mycélium, eh bien, c'est le gîte et le couvert. Ça va être une nourriture indispensable pour les larves. Les ouvrières aussi en consomment. Donc, elles vont, en contrepartie, les fourmis, ben, l'entretenir, l'ensemencer, le nettoyer, le protéger. Donc, pour ça, en fait, elles découpent les feuilles des arbres vivants. Et ces feuilles découpées vont servir de substrat pour le développement du champignon. Elle consomme aussi des fruits, hein, des choses sucrées. Comme elle coupe les feuilles des arbres, quand c'est un arbre pour lequel vous voulez récupérer les feuilles, comme l'eucalyptus, bah, il n'y a plus de feuilles à récupérer. Surtout si les colonies sont en très grand nombre. Donc il y a un impact économique qui est important et de nombreux insecticides, ou pesticides ou fongicides qui vont être utilisés pour essayer de les détruire, donc avec un impact sur l'environnement fort et une pollution importante. Donc c'est assez intéressant de trouver des stratégies peut-être alternatives, mieux connaître la biologie de cette espèce pour essayer de limiter le développement des colonies. Alors il n'y a pas de système de satiété, hein. Elles découpent les feuilles, mais ce n'est pas elles qui les mangent, c'est pour le champignon. Donc pendant toute leur période d'activité, elles découpent. Donc les dégâts peuvent être assez considérables. Je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez quelques questions?
Il vaut mieux que les personnes qui ont des questions à poser les posent après, parce que je ne peux pas passer le micro, c'est pas enregistré les questions. Donc du coup...
Après quoi?
Après l'intervention, parce que si les gens posent des questions...
Ah, au milieu.
Je ne peux pas passer... Donc, il y a un petit problème technique, quoi. Mais c'était bien, Frédéric-Jeanne, parce que c'est plus... Mais ce n'est pas facile pour nous si c'est enregistré. Merci beaucoup, en tout cas. C'était passionnant.
Oui, juste une petite curiosité. Quelle durée de vie elles ont, en fait, les... Tu vois, t'as parlé des fourmis, par exemple, champignonistes ou de certains termites. Tu peux nous donner une idée de la durée de vie de ces bestioles, s'il te plaît?
La durée de vie est très variable selon les espèces, mais par exemple, vous avez sur les fourmis des chercheurs qui n'ont pas survécu aux rennes, donc une vingtaine d'années. Mais ça va être très variable en fonction des conditions environnementales, et ce qui est difficile, c'est que vous avez certaines espèces, on ne peut pas les maintenir en laboratoire. Donc ça nécessite vraiment des suivis assez difficiles. Et vous avez des espèces, vous avez un turnover aussi à l'intérieur de la colonie qui est possible. Et du coup, ça rend assez difficile justement ce suivi. Alors, par exemple, une reine d'abeilles, ça vit... avant, on vous disait que ça vivait 8 ans. Maintenant, c'est assez extrême. On est plutôt sur du 4-5 ans. Et souvent, les apiculteurs les changent tous les ans.
Avec cette durée de vie, on voit qu'il y a beaucoup d'adaptations technologiques, qu'on peut appeler ça technologique, des fourmis. Est-ce que au niveau évolutif, au niveau d'un temps plus long, on observe que l'évolution est plus technologique que génétique au sein de ces espèces sociales?
Alors j'avoue que technologique, je vois pas ce que vous voulez.
Mais comportemental, avec la création de nids plus ou moins spécialisés, plus ou moins avancés, avec la qui sont des adaptations comportementales et non génétiques, plus liées à leur morphologie ou leur physiologie.
Alors, vous avez des caractéristiques en fonction des espèces. C'est-à-dire que vous avez certaines espèces qui vont faire des constructions, mais d'autres espèces qui n'en font pas. Donc, vous avez au niveau de l'évolution, vous avez effectivement à chaque fois des ancêtres communs, mais ces ancêtres communs font que vous allez avoir des espèces qui vont avoir des biologies qui vont être différentes. Mais c'est des processus évolutifs, c'est-à-dire ce ne sont pas les mêmes individus. Hein, vous allez avoir au cours du temps une sélection en faveur de certaines caractéristiques. Mais ce sont vraiment des espèces différentes, donc vous ne pouvez pas avoir de descendants lorsque vous avez des croisements entre espèces différentes. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas de reproduction. Donc vous allez avoir effectivement, comme dans tout le règne animal, en fait, hein, des caractéristiques qui vont être liées, des performances qui sont liées à l'espèce. Maintenant, effectivement, vous avez des contraintes environnementales qui peuvent avoir poussé l'évolution de certaines espèces vers des adaptations particulières, qui fait que sinon, effectivement, l'espèce ou les individus ne seraient pas présents. Donc notamment, par exemple, en milieu aride, si vous n'avez pas des adaptations, que ce soit à construction d'un nid, ou alors ça peut être dans la période d'activité pour aller collecter de la nourriture, ces adaptations vont être indispensables pour la survie de l'espèce.
Ma question, c'était plus, est-ce que ces adaptations sont plus liées au développement d'un comportement ou à l'apparition d'un gène particulier?
Alors, ce qui est héritable et ce qui est transmis, hein, c'est la génétique. Une innovation comportementale n'est pas héritable. Elle peut être transmise culturellement, mais ça peut se perdre plus facilement. Donc, a priori, ce serait une interaction entre la génétique et l'environnement.
Plus de questions ? Si ?
Quand vous parlez des soldats chez les fourmis, c'est quand même des femelles ou pas ?
Un monde de femelles.
Ouais, que des femelles.
Que des femelles. Chez les termites, ça peut être des mâles ou des femelles.
En même quantité?
Chez les termites, pas forcément. C'est, a priori, ça peut être 55. Mais on n'est pas à 10% près. Non, il y a les deux. On sait que les deux existent. Et le développement peut faire que vous trouvez des mâles et des femelles. Mais chez les fourmis, et les abeilles, hein, c'est que des femelles. Et les mâles sont produits uniquement pour la période de reproduction. D'autres questions ou... Non. Ah, encore une. Oui.
Du coup, je reviens aux mâles chez les termites. Ils ont les mêmes fonctions que les femelles ou pas?
Oui, les ouvriers partagent tous à des tâches collectives. Hein, donc, pas. Il n'y a pas de différence. Hein, c'est-à-dire les mâles certaines choses et les femelles d'autres. Ce sont des ouvriers qui vont contribuer justement. Qui vont consommer le bois, qui vont aider au développement d'autres larves, etc. Par exemple, chez les abeilles, les mâles ne peuvent pas s'alimenter. C'est les ouvrières qui vont devoir les alimenter. Donc, non seulement ils n'ont pas d'autres fonctions, mais ils ne font rien. Ils ne font que la reproduction. Chez les fourmis, ils peuvent s'alimenter. Mais très vite, hein, au moment de l'essaimage, ils partent. Et juste pour reprendre sur les abeilles, si le mâle ne s'est pas reproduit, là, en ce moment, hein, quand l'automne arrive, bah, non seulement il va être chassé par les ouvrières ou il va être tué, mais elles ne le garderont pas dans la colonie. Et s'il se reproduit, il meurt après.
Chez les guêpes, c'est la même chose ou pas? Il ne meurt pas aussitôt après?
Non. Enfin, il va finir par mourir. Mais chez les guêpes, vous pouvez trouver sur des fleurs, hein, celles par exemple qui consomment un peu de nectar, ça peut être des mâles ou des femelles. Donc là aussi, on peut faire la différence. De toute façon, si vous vous trompez, vous le savez vite. Les femelles, elles piquent pas les mâles. Mais les mâles peuvent contribuer à la récolte de nourriture chez les guêpes. Bon. Donc on va s'arrêter là. Ah, pardon, excusez-moi.
Pardon, oui. Les termites en France, la répartition, je veux dire, il y a quelques espèces ou...
Oui, on a plusieurs espèces de termites en France. Et notamment, vous avez des termites qui vont faire pas mal de dégâts au niveau du bois. Donc, par exemple, bah, Euro Disney, c'est super hein, pour les termites. Et qui remontent notamment sur tout l'Ouest, avec des espèces qui ne sont pas françaises et qui vont vraiment se développer. Alors, ce qui les caractérise, par contre, c'est que là, vous avez ce qu'on appelle des néoténiques. C'est-à-dire que... Par exemple, pour les fourmis, quand vous transportez une colonie, s'il n'y a pas la reine, votre colonie elle va mourir assez rapidement. Une ouvrière, ça ne vit pas très longtemps. Hein, ça vit quelques mois ou une saison, mais voilà, ça ne vit pas très longtemps. Donc, votre colonie va rapidement mourir. Ces néoténiques, ça veut dire que ces larves que vous voyez peuvent se transformer un petit peu et devenir des reproducteurs. Donc, vous pouvez... faire une nouvelle colonie juste à partir d'une poignée de larves. Donc ça leur donne un pouvoir envahissant finalement qui est quand même assez important. Donc si vous ramenez du bois mort de chez un voisin qui a des termites, même si vous n'avez pas de reine, bah, la colonie peut se développer et vous pouvez très rapidement être envahi par ces termites.
Bon.
Voilà. Ça me paraît bien petit, c'est normal.
Sur l'écran, c'est...
Ah d'accord, ça s'est réduit automatiquement. Bon. Bonjour à tous. Merci Anne pour cette présentation. Je ne sais plus où me mettre. Et merci pour l'organisation de cette journée qui traite d'un sujet... ô combien important qui est la relation avec, on va dire, les insectes, mais on va être plus large et on va parler d'invertébrés. Parce que les insectes ne sont en définitive qu'une partie relativement grosse, mais qu'une petite partie de ces invertébrés. L'angle que je vais vous proposer, c'est pas de vous initier à ces charmantes et nombreuses petites bêtes, mais à mélanger deux angles d'approche assez différents, à savoir l'histoire des sciences et également l'histoire culturelle. Et l'histoire des sciences va nous permettre de comprendre une partie de cette histoire culturelle et vice-versa. Vous allez voir en fait les relations qu'on peut établir entre les deux. Je me suis intéressé pour faire cette histoire sur les ouvrages naturalistes et dans les ouvrages naturalistes, particulièrement aux illustrations, qui est l'un de mes dadas. Petit rappel sur le rôle des images dans l'étude des invertébrés. Alors, je vais vous poser un quiz, mais par contre, j'aimerais que les entomologistes ou les arachnologues présents dans cette salle ne répondent pas, parce qu'ils vont peut-être avoir des facilités. Je vais vous proposer un texte et vous allez essayer de deviner à partir de ce texte que j'ai pris dans un véritable ouvrage publié, je ne vous dirai pas à quelle époque, savoir de quoi il s'agit. Alors, je vais vous le lire en même temps que vous. Lèvres allongées, en triangle renversé dont le sommet touche au plastron, pattes-mâchoires à coxopodites longs, droits à angles arrondis, conjecteurs en spirale, presque découverts, on dirait de la poésie, hein, c'est vraiment extrêmement beau, mandibules courtes, verticales, bombées, corselet grand, large et bombé en avant, abdomen ovalaire, presque rond, déprimé en dessus, pattes remarquablement larges et courtes, la quatrième et la première presque égales, couleur rouge ou noir profond, taille de 1 à 3 cm, patrie, ce genre étranger au Nouveau Monde habite surtout le bassin de Méditerranée. Alors bien sûr, il y a quelques indices pour vous aiguiller. Alors est-ce que donc, je le rappelle, les entomos et les arachnos sont exclus malheureusement de... Et vous n'avez aucun prix à gagner en plus, ce qui est assez vache. Est-ce que vous avez une petite idée de l'animal dont il s'agit? Un animal qui se trouve en France, pas facile à voir, pas de partout, mais spectaculaire malgré qu'il soit relativement petit. Est-ce que vous avez une idée? Même approximative. S'agit-il d'une mouche, d'un mollusque, d'un arachnide quelconque? Non? Alors on va faire le test inverse. Maintenant, je vous ai parlé du texte pour deviner l'animal. Je vais vous présenter une image pour deviner l'animal. Vous voyez le rapport. Et là, c'est nettement plus clair. Si on s'y connaît un tant soit peu, vraiment, c'est le début, c'est les trois premières leçons de le cours d'alphabétisation à l'égard de la zoologie, on voit aisément que c'est une araignée, d'ailleurs absolument magnifique. Sauf que si vous n'avez que l'image cette fois, c'est-à-dire pas le texte sans l'image, mais l'image sans le texte, ben, si vous n'êtes pas non plus spécialiste, le nom de cet animal vous est parfaitement inconnu. Sa taille, il peut faire 2,50 m de long, on ne sait pas. Enfin, où vit-il? Comment vit-il? On ne sait pas. Et il va falloir donc le mélange des deux, à savoir le texte et l'image, pour aller plus loin dans la compréhension de ce monde. Et là, par exemple, on va pouvoir lire, alors c'est une présentation extrêmement succincte, on en a des beaucoup plus longues dans les guides d'arachnologie. Alors c'est une présentation un peu dédiée à toi, je savais que tu étais présente, donc tu vas voir, il y a une présence assez massive de petites bêtes à huit pattes. C'est Erésus niger, là c'est un mâle, il fait 8 à 11 mm de long, du début de la tête jusqu'au bout de l'abdomen, donc vous voyez, c'est un animal relativement petit, mais c'est l'une des plus belles araignées de France, je crois qu'on peut le dire sans... Hein, c'est... Ah oui, elle est magnifique.
Tu peux te décaler, Valérie, on ne voit pas les...
Ah pardon. D'accord. Donc, et cette relation entre l'image et le texte pour comprendre de quoi il s'agit, il y a énormément en fait de savants, de naturalistes qui l'affirment depuis très longtemps. Là, je donne une petite citation de Jeanneret de 1684. Jeanneret, juste pour le situer dans l'histoire des sciences, c'est un personnage d'une importance absolument considérable parce qu'il est considéré par beaucoup d'historiens comme le fondateur de la zoologie moderne. Il marque vraiment un passage de ce qui était fait en zoologie à la Renaissance, à la zoologie moderne du XVIIIe siècle. Fin 17e, début 18e, et vraiment ce passage est totalement incarné par Jeanneret à travers différents ouvrages qu'il va faire. C'est d'abord un botaniste, mais il va s'intéresser un petit peu à cause des hasards de la vie à la zoologie, et il va appliquer à la zoologie la méthode scientifique qui a été développée depuis longtemps en botanique. Et c'est cette application de cette méthode botanique, en quelque sorte, à la zoologie, et le côté, je dirais, vraiment brillant de ce chercheur qui va faire naître cette zoologie moderne. Il est considéré vraiment, même par les historiens anciens, comme étant une sorte de père fondateur de la zoologie. Et il donne une petite citation dans une lettre que j'aime beaucoup. C'est un livre de botanique sans images, mais on pourrait le dire la même chose pour la zoologie, bien évidemment. Un livre de botanique sans images serait comme un livre de géographie sans carte. Et là, on voit bien le rapport qu'il peut y avoir entre le texte et l'image, l'image et le texte. Il y a une autre citation vers 1870-80 de Joseph Wolff. Joseph Wolff, alors lui par contre, il est certainement parfaitement inconnu, c'est un illustrateur animalier, sans doute l'un des plus brillants du 19e siècle et selon moi l'un des plus brillants de l'histoire de l'illustration zoologique. C'est un très très grand bonhomme qui a fait l'essentiel de sa carrière à Londres. Il travaille pour la Société zoologique de Londres. Et c'est quelqu'un qui est réputé pour sa capacité non seulement de mémorisation, il a une mémoire photographique qui étonne tous ceux qui le croisent, par exemple Darwin. On sait que Joseph Wolff est capable de voir un oiseau au loin, comme ça, entre deux roseaux, et puis 20 ans plus tard, de pouvoir en faire un croquis absolument précis. Il connaît tellement bien les oiseaux que quand il reçoit un oiseau mort sous forme de peau, qu'il doit représenter vivant, il est capable de replacer les plumes exactement comme elles sont dans la nature. Il avait cette formule que j'aime beaucoup également, nous ne voyons distinctement que ce que nous comprenons complètement, qui signifie simplement que se promener en nature sans connaître la nature, ce n'est pas voir la nature, on ne peut pas percevoir la nature. On a besoin des connaissances naturalistes pour simplement réussir à démêler dans cet enchevêtrement de couleurs vertes et de petites bêtes qui passent dans tous les sens ce qu'il y a à voir. Et que sans les connaissances, le regard tout simplement ne peut pas exister. Il avait une autre formule sur la couleur des yeux des oiseaux, mais je vous le dirai une autre fois. Bref, ce petit rappel sur l'importance qu'ont eu les images dans l'histoire de l'histoire naturelle. Je vais revenir un petit peu sur cette construction historique de ce rôle. L'entomologie est d'abord et avant tout, à l'origine, un intérêt de collectionneur, comme d'ailleurs l'ensemble de l'histoire naturelle. On considère en fait que l'étude, ces premiers cabinets de curiosité que l'on constitue à la Renaissance, sont des cabinets destinés à à rassembler des choses merveilleuses, des choses étonnantes, des choses étranges. On aime beaucoup ce terme à la Renaissance. Et il y a vraiment derrière cela le collectionneur qui va amasser. Et peu à peu, de cet intérêt simplement de collectionneur, on va organiser les collections sur des bases plus rationnelles, plus systématiques, on va dire avec notre vocabulaire plus scientifique. Et si l'on regarde bien, parce que j'aime beaucoup ce frontispice d'un ouvrage absolument inconnu publié à Amsterdam en 1688, ces deux hommes, effectivement, j'aime beaucoup l'expression d'émerveillement de celui qui découvre un papillon sur cette table où les papillons sont arrangés absolument n'importe comment. Je pense que ça va faire hurler les entomologistes de cette salle, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup ce regard, justement, sur cette merveille de la nature que constituent ces petits animaux. Ces collectionneurs ne collectionnent pas que des objets d'histoire naturelle. Ils vont collectionner également des ouvrages d'histoire naturelle. C'est pour ça que ces ouvrages illustrés qui font la joie des éditeurs quand ils font des rééditions, parce que c'est absolument magique et magnifique, sont des ouvrages de luxe qui, pour certains d'entre eux, sont magnifiques, mais ne circulent absolument pas et qui n'ont absolument aucune action, je dirais, sur la constitution des sciences elles-mêmes. Je vais prendre un exemple célèbre, Audubon. Vous avez certainement entendu parler. C'est un ornithologue américain qui a fait le plus grand livre de l'histoire de l'édition, puisque c'est un double éléphant qui doit faire à peu près cette taille-là, et qui est le livre le plus cher. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des ventes aux enchères de livres anciens, le livre qui est vendu le plus cher de toute l'histoire de l'édition, c'est celui-là. Pourquoi il fait un format aussi grand? Parce qu'il veut représenter des oiseaux grandeur nature. Forcément, quand on représente des insectes, quand on représente des araignées, un livre de ce format est particulièrement pas utile. On peut faire des formats nettement plus petits compte tenu de la taille des animaux. Pourtant, ce livre d'Audubon, qui est célèbre pour la qualité de ses illustrations, c'est quelque chose qui peut se discuter, il y a bien mieux à la même époque, par des gens moins connus que lui, mais c'est un livre qui ne joue, en fait, qui n'a aucun rôle dans l'évolution de l'ornithologie elle-même. Il va avoir un rôle dans l'imaginaire collectif par rapport à l'ornithologie américaine, par exemple, puisque son nom va être utilisé pour la Société de protection des oiseaux, mais sur la science elle-même, le rôle va être complètement limité. Donc il faut bien voir que l'image que l'on fait des insectes n'est pas forcément quelque chose qui est utile à la constitution, pas nécessairement utile à la constitution des sciences elles-mêmes. Les premiers vrais ouvrages d'entomologie sont parfois avec des images étonnamment imprécises. Là, on a un ouvrage de Lister de 1678 où il y a bien sûr des araignées comme il se doit. Et c'est une planche qui est intéressante parce qu'elle a réellement été réalisée pour cet ouvrage. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'ouvrages d'histoire naturelle de cette époque, 17e, qui sont encore faites avec des images plus ou moins imaginaires. On a des choses tout à fait surprenantes dans des livres qui sont pourtant vendus et qui sont parfois réédités. Ça veut dire qu'il y a un lectorat. Là, au moins, chez Lister, c'est vraiment des araignées qu'il a observées et qu'il cherche à décrire. Il y a deux choses. Il y a déjà des représentations qui sont plus ou moins fidèles, comme la 21, où les pattes sont bien représentées en termes d'articulation, parce que figurez-vous qu'une patte d'araignée qui a plein de petites sections ne s'articule pas n'importe comment, et qu'on voit tout de suite celui qui a observé une vraie araignée, c'est qu'il va reproduire ces angles qu'il y a entre les différentes sections. Par contre, la 27, là, les pattes sont complètement allongées, ce qui est assez étonnant, et c'est très probablement fait d'après un animal mort qu'on a sorti d'un peu d'alcool, qu'on a étalé sur la table. Une fois que l'animal est mort et conservé depuis un certain temps, effectivement, ces pattes ont parfois une apparence absolument curieuse. Cette planche est absolument passionnante pour autre chose qui n'est pas là, qui est ici. J'aime beaucoup la représentation de l'araignée 34 et 33 parce que je ne comprends pas ce que ça pouvait servir, même pour Lister, c'est-à-dire ces petites taches avec ses 8 pattes en étoile. C'est absolument fascinant. Mais ça a été quand même gravé, imprimé, vendu, donc ça avait quand même une fonction. À côté de ça, il y a la question de savoir comment on représente ces invertébrés-là, comment on représente les insectes et les arachnides. La question se pose vraiment. Je prends un autre exemple d'un artiste qui s'appelle Eleazar Albin, dont on connaît absolument rien. On connaît ses ouvrages qu'il a fait sur les oiseaux et les insectes et les araignées, mais on ne connaît que ça de lui. On ne connaît pas sa formation, on ne connaît pas son évolution. Et dans cet ouvrage, il y a deux types de représentations. Il y a le frontispice que vous avez, donc c'est à droite si je ne me trompe pas, où on voit quelques araignées effectivement dans leur milieu naturel. Ce type de représentation est extrêmement rare à l'époque et elle va demeurer extrêmement rare jusqu'à la fin grosso modo du 19e siècle. Mais ça, c'est de façon générale, c'est-à-dire on n'a pas le besoin de, enfin, on ressent pas le besoin de montrer les animaux dans la nature et dans une position naturelle, en interaction avec leur milieu, avant le 19e siècle. On en trouve, mais pas dans des ouvrages d'histoire naturelle, dans des ouvrages de chasse, par exemple, dans des ouvrages de voyage. Mais dans des ouvrages de science, on montre toujours, comme à côté, l'animal isolé, parce que c'est lui que l'on étudie, en fait, c'est lui que l'on collectionne et que l'on décrit, c'est vraiment le cœur. À savoir comment il vit, en général, on ne sait pas. C'est-à-dire même les ornithologues, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'effectivement, quand on travaille sur des insectes ou des araignées, on travaille sur des animaux que l'on a en collection, donc forcément mort. Mais les ornithologues fonctionnent exactement de la même façon. Il n'y a pas de différence entre les disciplines. Ce qui est intéressant dans la plage, dans la planche à côté, c'est que les araignées sont montrées en quelque sorte de côté légèrement de trois quarts, ce qui donne une impression de volume assez étonnante. Mais on va voir que ce n'est pas cette façon-là que traditionnellement on va reconnaître. Il y a des exceptions dans cette illustration et vraiment, c'est extrêmement compliqué quand on étudie l'illustration naturaliste de faire la part des choses entre ce qui relèverait des arts et de ce qui relèverait des sciences. Et il y a un exemple passionnant qui est Maria Sibylla Merian, fin 17e, début 18e. Et je vous livre un petit texte de Réaumur, de ses mémoires pour servir à l'histoire des insectes, publié en 1734. C'est un chef-d'œuvre littéraire et naturaliste. Je vous invite à lire les mémoires pour servir à l'histoire des insectes de Réaumur, au moins les 80 pages du premier volume, il y en a 6, parce que c'est très très bien, vraiment c'est une écriture absolument merveilleuse. Réaumur était un très grand savant, patron de l'Académie des sciences, un grand expérimentateur. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les insectes, qu'il appelle son cher petit peuple, ennemi de Buffon, qui voit chez lui une sorte d'aberration mentale, quelqu'un qui s'intéresse aux insectes, mon Dieu, c'est pas possible. Et Réaumur, qui déteste Buffon pour, je pense, d'excellentes raisons. Enfin bref. Mais Réaumur, c'est vraiment, encore une fois, du point de vue de la littérature entomologique, savante, précise, vraiment, je vous recommande encore une fois les 80 premières pages de ses mémoires. On les trouve sur Gallica sans difficulté. Bref, il dit de Merian, Madame Merian a été conduite à Suriname, c'est comme cela qu'on disait à l'époque, par un amour véritablement héroïque pour les insectes. Ça a été une espèce de phénomène de voir une dame traverser les mers pour aller peindre ceux de l'Amérique après avoir peint un grand nombre de ceux d'Europe. À quoi fait-il allusion ? Merian vient d'un milieu, d'une famille d'illustrateurs, et elle va s'intéresser aux insectes, et elle va s'intéresser à la peinture d'insectes, la représentation des insectes, à la fois pour des raisons, on va dire, scientifiques, mais également pour des raisons religieuses. C'est-à-dire, elle considère, comme les membres du courant religieux auquel elle appartient, que la métamorphose des insectes est une sorte de symbole de la renaissance du Christ après sa mort. Il y a une sorte de parallèle que l'on peut faire entre cette transformation d'une chenille en papillon dans la fin du Christ sur la croix et puis sa résurrection. Donc, elle va s'intéresser aux insectes, elle va s'installer aux Pays-Bas pour des raisons diverses, très personnelles. Et là, aux Pays-Bas, bien sûr, c'est un pays très particulier parce que c'est un pays de commerce. Et arrive aux Pays-Bas énormément de produits venant des colonies. Et dans ces produits, il y a des animaux, il y a des plantes, d'où l'intérêt des jardins. Mais ça, c'est une autre histoire qui naît véritablement aux Pays-Bas. Et là, elle découvre une collection d'insectes constitués d'Amérique du Sud. Elle a une sorte de coup de cœur. Et elle décide, imaginez quand même, c'est au XVIIe siècle, avec sa fille, de traverser les océans pour aller au Suriname, aller dans les forêts avec des guides amérindiens, pour aller peindre sur le vivant des papillons exotiques. À l'époque, c'est tout à fait exceptionnel. Aucune femme ne fait ce genre de choses. C'est-à-dire pas peindre des papillons, mais prendre le bateau pour traverser les mers. Pourquoi ? Parce qu'on estime que les climats tropicaux ne conviennent pas aux Européennes. Il y a énormément de traités qui expliquent tous les malheurs qu'une femme pourrait rencontrer là-bas. Transformation des règles en un produit tout à fait, qui risque d'empoisonner le sang de ces pauvres femmes qui se risqueraient sous les tropiques. Et elle va rapporter effectivement une œuvre picturale avec des descriptions de textes qui vont être très critiquées immédiatement par à peu près tous les entomologistes masculins qui vont les lire. Et c'est des œuvres où effectivement on va avoir une description des papillons, des très belles planches. Là, on voit une sorte de coloration qui semble extrêmement approximative. Il faut imaginer que les planches sont gravées en noir et blanc, puis une par une, elles sont peintes à la main. Et jusque, grosso modo, dans les années 1850-1870, il n'y a pas ou peu de procédés automatiques d'impression en couleur. Donc dès que vous voyez un livre un peu ancien en couleur, il a été peint à la main. Donc imaginez le temps que cela représente, un livre avec 250 planches, toutes imprimées, donc une par une, toutes colorisées. Ça explique que tous ces ouvrages que vous voyez en couleur de ces temps anciens ont été imprimés à très peu d'exemplaires. 50 exemplaires, 250 exemplaires, c'est à peu près le cas par exemple des oiseaux d'eau du bon, ça n'a pas dépassé les 300 exemplaires. Parce que le coût de ces ouvrages limite totalement leur diffusion. J'ai calculé, par exemple, pour certains grands ouvrages de luxe, le coût de vente du 19e, le coût de vente représentait le prix d'une très grosse Mercedes, si je peux citer une marque. Donc, vous voyez, c'est vraiment personne ne peut se le permettre. Ça représente 1 à 2 ans de salaire d'un ouvrier, par exemple. C'est inimaginable. À côté de ça, il va y avoir une autre évolution qui ne tient pas tant aux arts qu'aux moyens techniques pour faire de la science et notamment l'arrivée du microscope. Pour des animaux aussi petits, effectivement, l'arrivée du microscope va changer totalement les choses. On a vu tout à l'heure chez Lister, vous savez, ces deux petites araignées qui ressemblent plus à une sorte de petite étoile dans les cieux qu'une véritable araignée. Il y a un ouvrage qui est un ouvrage absolument magnifique qui est fait par la Société Royale de Londres dans le but de faire la promotion justement du microscope. C'est sans doute l'un des premiers ouvrages de vulgarisation qui existe, qui s'appelle Micrographia, de Robert Hooke, dans lequel on va trouver des gravures faites grâce à cette nouvelle technique. Et là, les illustrations sont tout à fait extraordinaires. On franchit vraiment une étape considérable avec cette tête d'insecte, avec un luxe sur le détail, la position, cette fourmi absolument magnifique. C'est une très très belle illustration de fourmi, l'une des plus belles que je connaisse d'ailleurs. Et bien sûr, ce qui intéresse énormément les personnes vivant à cette époque, c'est de savoir à quoi ressemblent poux, punaises et autres petites bêtes dont ils sont absolument envahis et qui pourrissent littéralement leur vie quotidienne. L'arrivée du microscope va changer complètement les choses parce que ça va augmenter considérablement la précision des images. Et il va y avoir des ouvrages comme ça de luxe, d'une qualité, encore une fois, infiniment supérieure, comme Rösel von Rosenhof, qui, au XVIIIe siècle, va faire paraître deux séries, deux ouvrages, l'un sur les grenouilles et l'autre sur, on va dire, l'entomofaune, d'une façon générale. Et là, on a des ouvrages extrêmement précis. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui voulait étudier l'entomologie, qui pour étudier l'entomologie a appris les arts, parce qu'il estimait que les ouvrages qu'il voyait étaient mal illustrés, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, et que c'était intéressant, important qu'il puisse lui-même en fait figurer les images, ce qui est une démarche assez banale en fait à son époque. Il y a beaucoup de savants qui vont apprendre la gravure simplement parce qu'ils n'ont pas confiance dans les dessinateurs, et effectivement son ouvrage regorge de planches absolument splendides, extrêmement précises. Et notamment, j'aime beaucoup cette planche d'araignée. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre un invertébré marin. Je sais, c'est un peu... On sort des insectes et des arachnides, mais bon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une planche qui paraît presque à l'envers, alors qu'elle n'est pas à l'envers, puisque le texte est à l'endroit. Or, il y a en fait aucune raison de montrer quand on met une planche anatomique, effectivement, par exemple en bas. Alors, c'est une araignée, hein, je ne sais pas si... Parce que je pars du principe que tout le monde a immédiatement reconnu ce que c'était, ce n'était pas forcément évident. Et par exemple, tout en bas à droite, vous avez la face avant d'une araignée avec ses deux chélicères et ses yeux répartis sur le devant de son céphalothorax. Et d'habitude, on la met dans l'autre sens, c'est-à-dire avec les chélicères vers le bas. Mais à son époque, justement, cette standardisation de la représentation n'existait pas encore. Mais dès qu'on franchit un peu le temps, on va voir qu'il va y avoir plusieurs styles de représentation entomologique. Il va y avoir des animaux montrés en entier, parfois dans leur environnement. Mais il s'agit dans ce cas-là quasiment toujours d'ouvrages de vulgarisation entomologique. Il s'agit toujours d'ouvrages scolaires ou d'ouvrages destinés au grand public. Ce ne sont pas des ouvrages destinés, je dirais, véritablement aux savants. Ce qui est destiné vraiment aux savants, c'est des planches beaucoup plus standardisées, comme ce magnifique livre sur les araignées d'Amérique du Nord de McCook. Et on voit quoi? On voit effectivement cette reproduction. Là, on est très loin des araignées de Lister avec les pattes qui pouvaient être un petit peu n'importe comment. Elles ont grosso modo toutes les pattes présentées de la même façon. Parfois, pour simplifier le dessin, on n'en met que quatre d'un côté, puisque les autres étant exactement pareils, ce n'est pas la peine de tout représenter. Et bien sûr, des détails anatomiques qui permettent la reconnaissance. On retrouve cette face avant de l'araignée. Et juste en dessous, vous avez une sorte de petit objet, vous ne voyez peut-être pas trop ce que c'est. C'est le palpe, c'est l'organe reproducteur du mâle. Et parfois, c'est encore plus simplifié dans des publications véritablement savantes. On fait totalement abstraction de l'insecte dans son entier pour représenter que des toutes petites parties anatomiques, comme ces androconiums de papillons du genre Pieris qui jouent un rôle dans la production de phéromones, si je ne me trompe pas. Bon. Et qui sont limités, d'ailleurs, c'est une pièce anatomique qui est limitée à quelques genres de papillons, dont les Pieris. Les Pieris, c'est les papillons blancs qu'on retrouve dans les jardins assez facilement. Ça, c'est l'aspect, j'irais, scientifique de comment montrer des insectes. Mais on peut aborder les choses de façon totalement différente. C'est-à-dire, au lieu de l'aborder sous l'angle de l'histoire des sciences, on peut essayer de comprendre comment l'illustration d'insectes reflète la place des insectes dans la société. Et le domaine éditorial où il y a le plus d'images d'animaux, c'est clair, ce sont les publications destinées aux enfants. Et les publications destinées aux enfants sont remplies partout d'animaux, et ceux-ci disparaissent dès qu'on passe dans les publications pour adultes. Mais ces animaux que l'on voit dans les publications pour enfants ne ressemblent pas vraiment à des animaux. Enfin, ils ressemblent aux animaux sans être des animaux. Notamment, là, je vous montre l'un des... On est vraiment en 1807, au début des ouvrages illustrés pour enfants. Et qu'est-ce qu'on fait? On montre naturellement des animaux extrêmement ce sont quasiment des êtres humains qui portent des masques. On pourrait soulever la tête de cet ours, probablement. Il y a un être humain caché dessous. Ce ne sont pas des animaux. Ils se comportent totalement comme des êtres humains. Le problème avec les insectes, c'est que ça se prête moins bien à cette transformation anthropomorphique. Là, par exemple, dans ce petit livre pour enfants, on voit des papillons qui dansent. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à des papillons. Sauf que dans le même ouvrage, un peu plus loin, il y a un début de cette transformation des insectes en quelque chose qui ressemble à des êtres humains. On a un papillon qui est en train de lire un livre avec ses pattes. Et j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'insecte sur la feuille qui est en train d'écrire une petite lettre. Et bien évidemment, pour renforcer ce rapport, ce sentiment en fait de voir quelque chose d'identique à soi, ben on va placer des yeux sombres sur la face de cet insecte qui lui donne pratiquement un regard humain, en fait. On est capable d'interpréter ce regard. Et cette transformation qu'on va voir va être constante, et on va le retrouver aujourd'hui. Lorsque on va montrer des insectes dans des ouvrages, dans des œuvres, là, ce sont des films, mais ça ne change pas grand-chose, ils vont être totalement transformés. Ils ne ressemblent plus du tout. Et encore une fois, ce n'est pas propre aux insectes, c'est l'ensemble des animaux que l'on montre qui sont transformés en fonction de règles assez simples, qui tendent en fait à permettre l'identification des enfants à ces animaux, de diminuer le caractère étrange de la faune pour la rendre plus familière. Le grand explorateur de ceci, même s'il ne l'a pas inventé, c'est Disney. On sait par exemple que Mickey Mouse, au fil du temps, va devenir de plus en plus poupon. En fait, au niveau des traits, il va se rapprocher de plus en plus de la tête d'un nouveau-né avec des yeux de plus en plus grands. Là, les yeux sont absolument énormes par rapport à la face. Une face de plus en plus ronde. Pourquoi ? Parce qu'on a observé empiriquement, après on l'a mesuré, que les êtres humains sont spontanément plus attachés à quelque chose qui ressemble à un bébé que quelque chose qui ressemble à une araignée, par exemple. Parce qu'on reconnaît chez le bébé, il y a une sorte d'attachement, en fait, tout à fait instinctif, qui se fait en fonction de ses traits du nouveau-né. Et on va appliquer à Bambi, par exemple, on va prendre des animaux extrêmement proches, mais on va le tirer le plus possible vers cette impression de nouveau-né pour renforcer l'attachement. Et bien sûr, renforcer après la popularité de ces animaux. Le problème de tout ça, c'est que ça nous éloigne considérablement en fait, des vrais insectes. Il y a pourtant des tentatives de vulgariser l'entomologie par des images sans que ces images en fait, ne montrent des faux animaux. Il y a un très très joli livre, Les clients d'un vieux poirier, rien que le titre, écrit par un Belge, Van Bruyssel, illustré par Léon Becker, que tu connais Christine certainement, parce que c'était un très grand arachnologue, mais qui était également illustrateur. Et là, on voit bien l'intérêt d'être spécialiste des petites bêtes. Quand on dessine des petites bêtes, c'est que ça permet de les dessiner avec précision. C'est un livre qui raconte quoi ? L'histoire du narrateur qui va s'endormir un jour au pied d'un vieux poirier dans une prairie, et il va se mettre en s'endormant, il est la tête et au niveau des herbes, et là il va découvrir un monde complètement étrange et fabuleux qui est le monde en fait des insectes. Et ce qu'il va décrire sont des descriptions en fait réelles de comportements tels qu'on pouvait les décrire à cette époque. Et il y a énormément d'images qui sont très belles et qui montrent cette interaction. Alors par exemple, à droite, vous avez deux coléoptères qui se battent. Et le narrateur ressent une sorte de colère par rapport à cette bataille qu'il juge injuste, imméritée. Enfin, ça heurte sa sensibilité et il hésite à prendre une pierre et à écraser les deux, histoire de ramener un peu d'ordre dans ce monde. Cette question de sensibilité aux animaux pose également un autre problème. Alors oui, il y a quand même un exemple absolument unique et atypique d'un véritable biographe de la nature. Et biographe de la nature, ce sont ceux qui écrivent sur la nature sans transformer la nature dans une fable ou une poésie qui serait détachée du réel et qui se détache également de l'entreprise scientifique. Il ne s'agit pas d'écrire la nature avec... pour les savants, mais d'écrire la nature pour n'importe quel lecteur. Et Jean-Henri Fabre, je vous invite, enfin, j'imagine que vous le connaissez, mais c'est vraiment quelqu'un à découvrir, parce que c'est un des grands auteurs du 19e siècle français, et c'est surtout le seul qui a écrit réellement sur la nature, il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y a d'autres auteurs, mais ils écrivent beaucoup plus mal et racontent beaucoup plus d'âneries. On peut penser à Toussnel, par exemple, ou à Michelet, qui c'est des désastres. Mais Fabre essaye le plus possible de décrire le merveilleux de la nature. Et il réussit admirablement son coup. Certes, on peut discuter de ses observations, mais il arrive à capter vraiment le lecteur et à l'entraîner sur cet émerveillement par rapport à la nature. Et encore une fois, c'est un exemple unique. Il y en a énormément plus. Ça, c'est aussi une autre question. En Angleterre ou aux États-Unis, ça, c'est un genre littéraire, écrire sur la nature. En France, ce n'est pas un genre littéraire et Fabre est unique. Évidemment, dans ce lien, quand on veut montrer le lien affectif que l'on a avec les animaux, on montre toujours des vertébrés, toujours, sans exception. C'est assez logique. Parce que bah déjà, on peut toucher les vertébrés, c'est gros, c'est relativement résistant. Ils n'aiment pas forcément être touchés, mais nous, on aime beaucoup les toucher. Les enfants aiment beaucoup manipuler les animaux. Encore une fois, ce n'est pas forcément partagé par les animaux en question, mais ça, c'est une autre question. Avec les petites bêtes, c'est beaucoup plus difficile. Les insectes, les araignées, par exemple, c'est très fragile. L'abdomen d'une araignée, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui peut se déchirer très, très facilement. Ça ne peut pas se manipuler comme on manipule, encore une fois, un vertébré. Mais ça, ça joue un rôle très, très grand dans la construction, je dirais, d'un attachement à l'autre qui serait l'animal. Il y a pire que les invertébrés. Hein. Les plantes sont encore plus méprisées de la part des enfants, par exemple, que les animaux. Il y a une étude pour vous montrer quand même la faible part des invertébrés. Il y a une étude qui a été faite en 2012 sur 2400 titres de littérature pour enfants avec la répartition des animaux qui sont les héros. Alors, est-ce que vous voyez les invertébrés? Non ? Normal, il n'y en a pas. Ce qui est fascinant, c'est que non, on n'est pas capable d'écrire apparemment sur la nature pour les enfants. Il y a des exceptions, bien sûr, mais ces exceptions sont des exceptions minoritaires au sein d'un monde envahi par des carnivores, d'ailleurs essentiellement loup, chien, chat. Après, on a l'ours, le renard, le tigre sur les 10 animaux les plus cités. Il y en a quand même 6 qui sont des prédateurs, ce qui quand même interroge beaucoup sur notre relation à l'animal, qui est extrêmement une relation qui, encore une fois, biaise complètement notre regard sur la nature. Alors, vous allez me dire, tout ça, mais ça n'intéresse pas les scientifiques, ça n'intéresse pas l'initiation scientifique. Ben vous allez voir que si, parce que ces préjugés culturels que l'on retrouve dans les ouvrages destinés à la jeunesse se traduisent par des préjugés que vont partager les scientifiques eux-mêmes. Oups, j'ai été un peu trop vite. Si on regarde la répartition des espèces connues à la louche, on se rend compte que sur les espèces décrites et connues, 18% sont des plantes, 3% seulement sont des vertébrés et 79% sont des invertébrés. On vit dans un monde essentiellement de plantes et de petites bêtes. Maintenant, quand on regarde la répartition des publications scientifiques, 20% de ces publications scientifiques sont consacrées aux plantes. C'est pas mal, c'est à peu près pareil. Mais dès qu'on aborde vertébrés, invertébrés, on se rend compte que ça s'inverse. C'est-à-dire l'essentiel des scientifiques travaillent sur des grosses bêtes, travaillent sur des vertébrés. On ne connaît pas beaucoup d'enfants qui se lèvent un matin pour dire « Moi, je rêve de devenir zoologiste. Je veux travailler sur les nématodes. » non, c'est pas possible. Je veux travailler sur le tigre, le requin, le panda, l'ours, le lion, enfin je sais pas quoi, mais pas sur des petites bêtes. Enfin, il y en a. Mais c'est quand même pas majoritaire. En plus, aujourd'hui, un enfant qui dirait je vais travailler sur des insectes parasites risque de finir chez le pédopsychiatre assez vite. Et ce que je veux montrer par là, c'est le danger de sous-estimer les préjugés culturels qui sont visibles dans des choses aussi anodines que les publications destinées à la jeunesse. Parce que ça montre en fait comment on perçoit le monde, comment on s'organise dans ce monde-là. Et le premier problème, effectivement, qu'il y a par rapport aux insectes, c'est d'arriver à trouver une façon d'enthousiasmer, en fait, par rapport à un sujet qui est pourtant enthousiasmant. Je vous remercie.
Merci. Donc, on a le temps pour des questions.
Enfin, pour les personnes qui s'intéressent aux livres pour enfants, je sais que quand je travaillais en librairie, j'ai beaucoup vendu un livre de PEF sur les poux en folio Benjamin, qui est un petit chef-d'œuvre.
Alors,
un gamin qui élève des poux dans sa tête, et puis et la nuit, il dort avec ses poux, et les poux lui racontent des histoires. Il fallait vraiment l'inventer, et ça a été un best-seller.
Alors, c'est le problème de l'édition sont très souvent pas tant les lecteurs que les éditeurs. C'est-à-dire les éditeurs sont des redoutables espèces qui s'imaginent connaître parfaitement ce qu'il faut faire et en général, ils ont tendance à envisager l'édition, notamment jeunesse, vers le bas. C'est-à-dire actuellement, par exemple, on est en train de faire des éditions du Club des Cinq réécrites. Parce qu'on estime que le Club des Cinq, qui était une célèbre collection de livres pour enfants, ne peuvent plus être lus par les enfants d'aujourd'hui, qui sont devenus décidément totalement crétins. Donc on est en train de réécrire. Alors que c'était déjà des choses qui étaient, d'un point de vue de la qualité littéraire, infiniment inférieure à ce qu'on pouvait imaginer au XIXe siècle. Certes, l'édition a changé. Et le problème des éditeurs, tu parles effectivement de petites bêtes vraiment pas aimées, mais il y a un intérêt pour les enfants spontanément. En même temps, il faut se méfier parce que très, 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 très tôt, toutes les études le montrent, les enfants intègrent en fait les préjugés de la société dominante. Par exemple, on a fait des tests avec des enfants où on montre des images d'ours. Or, l'ours n'est pas distinguable au niveau du genre facilement. Il n'y a pas un dimorphisme sexuel manifeste. On montre une image d'ours, donc un ours qui est assis dans un fauteuil qui lit un journal, puis une autre image d'ours, le même, qui est en train de faire de la cuisine. Et on dit, quel est le sexe de ces deux ours ? Ben, les enfants, massivement, ben, l'ours qui est assis, qui lit, c'est papa ours. L'ours qui fait la cuisine, c'est maman ours. C'est-à-dire que, et très très tôt, il y a cette intégration de ces préjugés. Quand j'ai parlé des films d'animation Fourmis et Mille et une pattes, vous savez, il y a quelques années, il y a un film d'animation qui s'appelait Nemo, qui est sorti, un film extraordinaire. Alors, je vous rappelle l'histoire très rapidement. C'est un petit poisson clown qui est enlevé par des méchants pêcheurs qui vont revendre ce poisson à un amateur d'aquarium. Tout le film, c'est le désespoir du père qui cherche son fils pour essayer de le libérer. Et parallèlement, on voit la vie dans cet aquarium où se retrouve Nemo, qui est une vie absolument... Tous les poissons deviennent dingues d'être en quelque sorte incarcéré dans un aquarium. Tout le film est bâti pour dénoncer en fait la souffrance des poissons. Bah, figurez-vous, quand le film est sorti, on a assisté à un boom des ventes absolument considérable de poissons clowns. Quand je dis boom des ventes, c'est très vite, on est passé de quelques milliers à 500 000. Or, le tiers de ces poissons clowns étaient pêchés dans la mer. C'est-à-dire, on reproduisait absolument à l'identique ce qui était dénoncé dans le film. Ce qui est inquiétant, c'est pas que les enfants n'aient pas compris, quoique, je veux dire, quand même, il faut avoir déjà une sacrée couche pour ne rien comprendre du tout au film. Mais les enfants vont, avec leurs parents, voir le film. Donc ça veut dire que les parents ne comprennent pas plus que les enfants. Et là, on peut se dire, mais bon, quel type de message il faut servir pour être entendu.
Je me demandais finalement aujourd'hui, si on voulait faire le bilan sur cette illustration des insectes, on n'a pas tellement entendu parler de est-ce que ça existe toujours et qu'est-ce qui se fait ?
Alors, j'hésitais à parler par exemple de la photographie, du débat, le dessin contre la photographie, qu'est-ce qui est le mieux, etc. En fait, l'histoire montre qu'il n'y a pas eu véritablement de conflit entre recourir par exemple au dessin par rapport à la photographie. C'est-à-dire la photographie est arrivée, 1895, c'est très précis, comme un complément au dessin. Ça n'a jamais été vu à cette époque-là comme un substitut. Pourquoi un complément ? Parce que ça permettait de produire des images que le dessin n'était pas capable de fournir. Par exemple, la photographie est super bonne pour montrer des paysages, en fait, des végétations. Un ensemble de végétaux dans un lieu, c'est quand même plus facile de le photographier que de le dessiner. C'est beaucoup plus précis. Les squelettes, par exemple. Les squelettes, c'est plus facile également à photographier qu'à reproduire par le dessin. Par contre, le dessin va avoir un usage extrêmement fort dans l'illustration qui permet de montrer ce qu'il y a à voir. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dessiner dans un détail anatomique juste la portion de ce qui convient de voir dans le détail pour comprendre pourquoi ça c'est important et pourquoi ce qui est décrit dans le texte, on va pouvoir le lire dans une image. Et puis, ce qu'il y a eu, c'est l'arrivée massive de quelque chose qui a changé complètement les choses au jour d'aujourd'hui, c'est le numérique. Et notamment la photographie numérique. Photographie numérique, ça veut dire diffusion numérique très facilement. Et là, effectivement, il y a une transformation totale du rapport à l'image, parce que l'image devient extrêmement facile à faire. On n'est plus obligé d'apprendre le dessin, la gravure, la peinture pour essayer. Et on va pouvoir non seulement prendre la photo relativement facilement et la diffuser encore plus facilement grâce à Internet. Et ça, ça bouleverse totalement la construction en fait, du rapport à l'image et de sa diffusion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de scandales aujourd'hui sur des publications scientifiques qui utilisent des images qui sont bidonnées, en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des faux sur le texte, on fait des faux sur les images qui accompagnent le texte. Et il y a un scandale actuellement relativement gros qui concerne un généticien émérite du CNRS. Et il en est, je crois, une vingtaine de publications rétractées parce que ces images étaient fausses. On modifiait les images pour renforcer le résultat qui était montré. Donc ce qui est intéressant avec les images, c'est que les images ne montrent pas la réalité. Elles montrent une construction de la réalité. Alors elles peuvent être bidonnées, mais c'est toujours une construction. Je vais vous donner un exemple. Et la photographie, en cela, ne montre pas forcément la réalité. Je connais un livre d'initiation où on voit un splendide coléoptère absolument magnifique, noir, posé sur un pétale de rose, rouge, vraiment couleur éclatante, etc. Sauf que ce coléoptère vit dans la litière et se trouvera jamais sur un pétale de rose. Simplement photographier ce coléoptère noir au milieu d'une litière qui doit être brun foncé, pas terrible quand même. Donc on l'a pris, on l'a posé sur une fleur, on a photographié l'ensemble et puis voilà. C'est que ce qui est fascinant avec l'image, c'est qu'il y a toujours eu des constructions de fausses images ou de constructions d'images aberrantes. Il y a toujours eu ça. Et la photographie qui a on associe à l'idée d'exactitude, en fait, la photographie a toujours été vue comme un art de la représentation de la réalité trafiquée. Dès le début de l'émergence de la photographie, il y a eu l'émergence des ateliers de retouche photo. Je ne suis absolument pas sûr d'avoir répondu à votre question. Mais ce qui change énormément, il y a toujours de l'illustration scientifique, il y a toujours des postes, y compris au muséum, d'illustrateurs, mais c'est vrai que la photographie et la diffusion numérique de ces photographies a changé considérablement les choses.
Beaucoup de dessinateurs, effectivement, parce que c'est vrai que maintenant, il y a des gens qui font des dessins et qui retouchent après, derrière, ces dessins pour pouvoir publier derrière. Quoi. Enfin, il y a quand même aussi des gens qui font des photos directement nature sans les trafiquer. Freddy Jeanne a fait des belles photos de fourmis, si tu veux, dans la nature, et c'est réel.
Mais j'ai participé à la Haute École des Arts du Rhin, qui est une école de graphisme. Ils ont en fait une branche sur l'illustration scientifique. Mais l'essentiel des illustrateurs qui forment sont des illustrateurs de médecine. Parce que là, il y a un vrai... il y a un marché du travail. Mais les illustrateurs qui s'orientent vers l'histoire naturelle, il n'y a pas de marché du travail du tout. Hein.
Oui, pourtant, effectivement, moi, c'est vrai que j'ai pris depuis 2 ans... des filles qui sont en formation en illustration scientifique et en médiation scientifique à l'école Estienne à Paris, qui font du travail mais alors formidable, et qui ont fait des planches sur les araignées, donc vraiment superbes, en essayant de montrer justement les araignées un peu comme des bijoux, mais en observant à la loupe binoculaire, en reproduisant quelque chose qui est réel. Et ça a été très très bien perçu au week-end de Fête de la Science, il n'y a pas longtemps, où j'avais mis ces posters en illustration, en montrant qu'il y avait quand même encore des gens qui pouvaient travailler là-dessus. Quoi. Donc il y a vraiment ces images qui sont... Je pense que ça revient petit à petit, il faut être positif un petit peu et optimiste un peu dans l'approche. Et puis, comme tu disais, il y a un bouquin sur les poux qui marche très bien, mais il y a quelques bouquins aussi sur des animaux qui sont mal aimés, comme les araignées, puisque tu les citais, qui commencent à émerger un petit peu, ou sur les petites bêtes microscopiques, en les voyant différemment. Il y a un ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le monde microscopique qui nous entoure, qui est vraiment superbe, avec des dessins vraiment superbes. Ils ont vraiment fait ça de manière très réaliste et scientifique.
Mais ce qui est intéressant, c'est l'existence effectivement de véritables tabous dans l'édition, d'ailleurs scientifiques comme, on va dire, de vulgarisation ou d'amusement, peu importe. C'est-à-dire, par exemple, dans la littérature jeunesse, je ne connais qu'un seul ouvrage publié par des Québécois sur la faune, un ouvrage jeunesse sur la faune des cadavres, par exemple. C'est génial, la faune des cadavres. Je veux dire, les enfants, trouver un éditeur pour faire un livre sur les nécrophages, là, c'est un peu difficile. Et c'est dommage parce que, encore une fois, il y a même un intérêt narratif. C'est-à-dire, c'est pas que intellectuel, scientifique, écologique ou quoi que ce soit. C'est même passionnant à décrire ce qui se passe, les cohortes successives, enfin bref. Et dans les sciences, on trouve l'existence également de tabous similaires. Par exemple, Dieu sait si j'ai vu des images scientifiques depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Mais je n'ai jamais vu d'images d'accouplement de mammifères avant l'époque, on va dire, très très moderne. Jamais. De mise bas, par exemple. Étonnant. Il y a des choses à montrer. Dans les ouvrages vétérinaires, 19e, éventuellement. Mais d'histoire naturelle, moi, j'en connais pas. Je connais un ouvrage sur l'accouplement des éléphants fait au début du 19e. Mais là, c'est un ouvrage d'amusement parce qu'on imagine toutes les positions qu'ils pourraient avoir pour ne pas s'étouffer mutuellement. Mais c'est une curiosité faite pour des collectionneurs. Mais c'est très drôle parce que même... Et par exemple, le premier documentaire où on voit une mise bas d'une bisonne, c'est un documentaire Disney. On va chercher à l'interdire dans les années 50 parce que ça va traumatiser les spectateurs. C'est très, très curieux. Et parallèlement à ça, les scènes de prédation, il n'y a aucun problème. On les montre en long, en large, en travers. On ne montre que ça, d'ailleurs, les prédateurs. C'est très, très étonnant.
Oui, par rapport à votre dernière remarque, il me semble que vous évoquiez Fabre tout à l'heure, qu'il avait eu quelques problèmes parce qu'il avait osé parler dans un des enseignements de la sexualité des plantes.
À destination des filles.
À des filles, oui, oui.
Imaginez.
Ma question était la suivante. Vos exemples sont essentiellement pris dans le monde anglo-saxon et continental. Est-ce qu'on peut tracer un parallèle ou voir des différences entre des cultures différentes? Je pense particulièrement au Japon ou à la Chine.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que... Alors, pour le Japon, que je connais mieux que la Chine, le Japon découvre l'histoire naturelle avec l'arrivée essentiellement des Néerlandais. C'est ceux qui leur permettent... Ils vont changer complètement leur façon de parler de la nature à l'arrivée des ouvrages ouvrages néerlandais transportés par les contacts qu'ils ont avec les voyageurs néerlandais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant au Japon, c'est que les Japonais qui vont traduire ces ouvrages vont être obligés d'inventer toute une série de mots qui n'existent pas en japonais. Le mot nature, par exemple, n'existe pas en japonais. Il faut savoir que le mot nature, qui est un mot compliqué en français comme en anglais d'ailleurs, puisqu'il désigne des choses assez contradictoires, n'existe pas dans d'autres langues non européennes. Donc les Japonais sont obligés de trouver des adaptations en quelque sorte pour traduire le vocabulaire utilisé par exemple par les ouvrages de botanique que vont apporter les voyageurs néerlandais. Et les représentations qu'on va voir, l'iconographie qu'on connaît sur la nature va changer de nature sous l'influence de ces ouvrages savants, en fait. Et on va montrer autrement la nature sous cette influence-là. Ce n'est pas une influence vraiment extérieure, parce que c'est en fait intégré dans la culture japonaise, c'est en quelque sorte digéré par les Japonais. Ça devient japonais à partir de là, mais il y a une influence certaine. Et c'est très intéressant quand on voit l'évolution des représentations de la nature. Il y a effectivement un changement qui s'opère, y compris dans des illustrations non scientifiques, après cette influence, on va dire, venant de l'extérieur. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et ils s'inspirent de ce qu'ils voient à travers cette fenêtre pour changer leur représentation. Donc, et on n'a pas d'autres vraiment exemples comparatifs, surtout qu'on finit par comparer des sociétés tellement différentes. Moi, je suis très prudente dans la comparaison de sociétés, parce qu'on le fait abondamment en disant oui, mais les chasseurs-cueilleurs ne vivent pas comme nous. Bah ouais, ils ne vivent pas du tout comme nous sur aucun point. Donc, comparer par exemple le rapport à la nature de chasseurs-cueilleurs au rapport à la nature de sociétés industrielles, c'est une perte de temps. Donc après, il faut faire attention sur qu'est-ce qu'on compare, sur quelle base on compare. Mais dans le cas du japonais, en tout cas, chinois, je ne pourrais pas m'avancer, mais dans le cas japonais, c'est tout à fait fascinant. Et que lorsque Darwin va être traduit, le mot évolution, ça va leur poser le mot adaptation, par exemple. Comment traduire le mot adaptation, qui déjà pose un problème de l'adaptation. Enfin, le mot adaptation en français et en anglais, c'est pas exactement le même sens. Donc, en japonais, alors là, ils vont soit trouver des mots japonais qui peuvent s'adapter, soit en fait traduire en gardant la sonorité du mot d'origine par un assemblage de sons.
Les Japonais sont très 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 fervents de femmes. En fait.
Ah oui, oui. Alors ça. C'est étonnant. Fabre est plus connu au Japon qu'en France. Les petits japonais, en tout cas à une époque, dans leurs livres d'apprentissage du japonais, il y avait des passages de Fabre. En France, c'est pas possible. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une autre histoire parallèle, c'est Seton, S-E-T-O-N, Ernest Thompson Seton, qui est un grand auteur américain extrêmement célèbre, qui à la fin du 19e, début 20e, va être le premier à promouvoir de façon positive le loup. C'est le premier à le faire. Ses livres vont être vendus à des millions d'exemplaires. Enfin, c'est un artiste étonnant. En France, son livre le plus fondamental sur le loup vient d'être traduit chez José Corti. Alors, je vous invite, parce que c'est vraiment intéressant d'un point de vue littéraire. Je vous donnerai les références plus précises après. Et ça, pour une fois, c'est enfin traduit et correctement traduit. Mais ce qui est dommage, c'est que cette traduction fait vire toutes les illustrations. Et Seaton est extrêmement connu au Japon. Il a fait l'objet d'au moins deux adaptations en manga. Ses œuvres complètes sont rééditées régulièrement depuis les années 1930. En France, pas du tout. Donc c'est assez étonnant de voir ces passages. Or, Seaton et Fabre ont un rapport commun, et on voit bien pourquoi les Japonais s'intéressent à ça. C'est que ces deux hommes qui sont face à la nature, qui vont être quelque part transformés par ce contact à la nature. Fabre va être émerveillé, il va se faire le porte-parole, pas le poète, parce que ça peut être péjoratif, mais on va dire la voix qui va permettre de comprendre ce qu'il observe. Et Seaton va être transformé par son contact avec les loups. Il ne va plus être le même, en quelque sorte, après. Et ça, ce rapport qui transforme au contact de la nature, ça, les Japonais comprennent très, très bien, et ce que les Français ne comprennent pas du tout. Ce n'est pas du tout dans leur culture. Mais c'est vraiment fascinant. Et quand on voit ces deux passions japonaises pour femmes d'un côté et Seaton de l'autre, on se dit c'est intéressant parce qu'encore une fois, il y a des points communs fascinants. Et je vous invite vraiment à découvrir Seaton, ventre à terre, dès que vous sortez, acheter son livre, là, qui vient d'être traduit. J'ai aucun intérêt chez Corti, mais et la traduction est correcte.
On va faire la pause. Merci beaucoup, Valérie. Merci.
Pas de rien.
déjà que ça marche